Début de stream et alerte enfant. Dès au moment où je lance le stream, au moment où la caméra s'allume plutôt, au moment où la musique s'arrête, eh bien Solal, mon petit dernier qui est à la maison là, parce qu'il n'est pas encore en maternelle, il rentre. Solal, tu vas bientôt aller à l'école, tu sais? Tu sais qu'on a rendez-vous à l'école. Non, la pupus. Il rentre dans la pièce et donc je mets l'alerte enfant que vous avez ici à l'image qui a été préparée par Pépipin, mon ami. Oui, c'est toi qui mets, d'accord. Mon ami graphiste, streameuse, tu mets là, mon chéri, tu branches là. Voilà. Il faut que ça. Tu veux que je t'aide? Voilà. Là, vous voyez d'ailleurs en rouge, vous avez notre petit Solal qui est à côté de moi dans la pièce. Là, il est en rouge avec Monsieur Pikachu.
Non, 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 c'est pas.
Oui, je sais, mais regarde, là, c'est Pikachu, là. Oui. Toi, je sais que tu as un autre Pokémon avec toi qui s'appelle comment?
Noctali.
Effectivement, Solal qui a eu un nouveau Pokémon offert par sa très gentille grand-mère ce week-end, qui est Noctali. Solal, il faut brancher, et après on laisse brancher. Voilà. C'est toi qui fais, mais après on laisse brancher. Donc, et voilà, on laisse comme ça. Ça va, Solal? Solal, 3 ans en février, voilà, qui a rendez-vous. Écoute, Solal, écoute, c'est très important. Tu as rendez-vous cette semaine avec papa et maman à l'école de Malo. Non, ça faut pas toucher, c'est très fragile, ça coûte les yeux de la tête. Et ça, non, ça non plus. Tu sais que tu as rendez-vous à l'école, tu sais pourquoi faire? Pour ton entretien d'admission. Donc c'est là, il faut pas passer à côté. Hein. Qu'est-ce que tu fais?
Non, arrête. Solal, non.
Papa?
Oui. Non, on va pas écouter une chanson. Non mais papa il travaille là. Regarde, il y a des gens là qui sont là. Arrête.
Arrête, Solal.
Arrête. Non, Solal, papa il travaille. Le travail. Arrête, Solal. Arrête. Solal. Oh. Tu vas tout casser. Allez, arrête. Non. Arrête, Solal. Ok. Tu veux ton pain, Solal, ou pas? Tu veux ton bread? Tu veux ton bread?
Non.
Ok, ok, ok. Avec l'os de dos. Et laisse papa travailler maintenant. Yes.
Excusez-moi. Ça va, vous? Bon, là, c'est tout. Parfois, les streams sont un peu perturbés par les enfants. Alors là, il se trouve que Solal est rentré à la seconde. À la seconde même où j'allumais la caméra. D'où le début de ce début de stream un petit peu perturbé. Mais c'est bon. Bah, en général, Solal, le matin, il passe deux fois. Donc, la première fois, elle est faite. Elle est faite. Mais c'est mignon, en fait, ces enfants qui viennent. Mais du coup, il s'intéresse. Voilà, il a toutes ces histoires d'ordinateur, là. Voilà, c'est les enfants du numérique, quoi. Voilà, du coup, je remets tout en place, parce que, évidemment, tout est dans des ordres, maintenant. Ah, comment ça va, vous? Comment ça va? Captain McBernick, bonjour à tous. J'ai essayé de travailler en gardant mon fils. Et la fois, c'est impossible. Il faut qu'on mette fin à la prévision, parce que je vois que vous avez les petits badges 1 et 2, là. La petite prévision qu'on avait fait hier suite... Avant le match plutôt PSG contre le club amateur là, certains ont parié des points de chaîne, hein, sur la victoire des amateurs. Bon, victoire du PSG 7-0. Voilà, c'était un peu sur le papier, c'était ça, mais on sait jamais, c'est du foot. Donc on va mettre fin à la prévision pour que certains fassent le point, le plein de points de chaîne. Je vais remercier Alex Badgone pour ce très gentil 14e mois d'abonnement. Bobo Dev pour ce 10e mois d'abonnement. Merci à tous les deux d'avoir sub en plus pendant que le stream est en train de partir en sucette. Je voulais un petit peu et puis on démarre une revue de presse qui va commencer par un sommaire. Il y a des gens en 2023 qui font encore la blague. Je balance un comme Nikusa par exemple, qui dit « Mais la personne derrière le rideau est intéressée par quoi ?» Mais qui est la personne sur le balcon derrière toi? Mais attention, bon, ça ne marche plus, ça ne marche plus en 2023. Déjà en 2022, ça marchait plus très très fort. Très très fort. Ducati et Macaron est très très triste, va perdre tous ses points de chaîne parce que Pays de Cassel, le club amateur dont je parlais un instant, a perdu en 16e de finale de la Coupe de France face au PSG. En même temps, c'était un pari risqué. Mais bravo, il faut du tempérament pour faire ce genre de Paris. Alors, lisons. Le stream avec les enfants sont géniaux, me dit John Snowboard. C'est top, c'est vrai. Mais c'est un peu décousu quand même. Un peu décousu. Comment on a les journaux en entier sur SPQR? Ah ben, on les a pas. Happy Day a trouvé un site très très bien pour avoir les unes des journaux, notamment en région. SPQR, il y en a plusieurs en fait. Mais tu n'as que les unes en fait, hein, pour avoir le journal en entier. Il faut l'acheter parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de journalistes derrière, et si tu l'avais gratuitement, eh bien ça ne vaudrait rien et il y aura personne qui travaille derrière. Après il y a des possibilités d'abonnement, des agrégateurs de journaux, il y a plein de choses, mais à un moment il faut ce contenu plutôt de qualité, il faut le payer quand même. Oui, Ducati et Macaron parlent de l'entretien que Solal va passer, et c'est vrai, cette semaine pour rentrer en petite section de maternelle l'an prochain, ouais, ça va, mais c'est vrai, même à cet âge on peut avoir des entretiens pour le travail. Ça m'avait angoissé pour Malo, et en fait c'est très cool, histoire de voir les parents, hein. Et de voir si l'enfant va pas littéralement mettre le feu aussi à l'école, hein. Voilà. Il n'a pas rédigé son CV, mais voilà quoi. Alors après à la maison il est un peu foufou avec son petit frère, mais c'est ça qui est rigolo d'ailleurs. Quand il est face à des gens qu'il ne connaît pas, il est très sage, un peu timide, super gentil. Et quand il est, ça a été ce qui nous a beaucoup soulagé, parce qu'on est, quand même très, un petit peu inquiet de l'arrivée de Solal à l'école, parce qu'il est quand même un peu... Il a son caractère, voilà. Il a son caractère, et puis il ne se laisse pas faire. Mais on lui a fait... On l'a inscrit en prépa maternelle. En fait, c'est deux fois par semaine, il va dans un endroit avec d'autres enfants, parce qu'il n'est pas à la crèche, il y a une nounou à la maison qui s'occupe des deux enfants. Et donc, deux fois par semaine, il va dans un endroit où il fait, avec d'autres enfants, un atelier artistique, du dessin, des activités sympas et tout. J'appelle ça la prépa maternelle. Et ça se passe très bien. Il est tellement gentil avec les autres enfants et avec la maîtresse, voilà, l'animatrice, mais qui est une maîtresse, qui a une formation d'enseignante, qu'on rêverait d'avoir le même à la maison. Donc voilà, il est cool avec les autres et à la maison, c'est la folie, quoi. Voilà. Bon, ça va, vous ? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a Pacar Marsanova, j'espère que je prononce bien, qui pose une très bonne question. Bonjour, vous ne faites que des journaux quotidiens, vous faites quelques hebdos mensuels, bimensuels. Au début, j'ai été tenté d'aller vers la presse magazine. On a une des presses magazines les plus riches au monde, notamment en raison d'un cadre français où les magazines, il y a une aide à la distribution des magazines, quel que soit le tirage, c'est un truc très très français. Et donc qui permet justement une grande diversité. Hein. Il y a aussi des choses très intéressantes dans notre pays quand même, il faut les saluer. Et le problème c'est que voilà, il y a trop de choses. Et déjà lire la presse, l'intégralité des journaux le matin, ce que je fais, la presse nationale, hein, dans le désordre, Le Parisien, Libé, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. J'espère que j'ai rien oublié. Eh bien c'est déjà vachement de temps quoi. Donc si en plus je devais lire la presse magazine, que j'apprécie moins que par le passé d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est elle qui est moins bonne ou c'est moi qui est plus difficile. J'ai beaucoup plus de plaisir dans la lecture de la presse nationale quotidienne. Et quand je relis aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps, la presse magazine, notamment les newsmag, hein, les hebdos d'actualité, je lis des trucs que j'ai déjà lus dans la presse quotidienne, en vrai. Donc, et pas mieux, quoi. Donc, je ne suis pas très séduit. Alors qu'à une époque... Je lisais beaucoup ces magazines. Bon, voilà. Après, c'est très subjectif. Hein. Merci Yves du 13 pour le très gentil 17e mois je vois examen dans le chat et du coup d'examen, d'abonnement. Tu vas voir, il y a un badge qui arrive pour les 18 mois d'abonnement qui est plutôt sympa, qu'on a préparé avec Pépipin, hein, justement. Justement, Chemical What the Fuck vient de signer son 17e mois d'abonnement. Alex Badgone, j'espère que tu vas bien, son 14e mois d'abonnement. Bobo Dev, son 10e mois d'abonnement. Somsal, son 7e mois d'abonnement. Cunilingus, j'espère que tu vas bien, son 5e mois d'abonnement. Passinobro, ton Prime, merci pour ton Prime. Michael, merci pour le 2e mois d'abonnement. Oh, j'avais pas vu tous ces subs. Aeros, qui était avec moi dans la matinale de France Info, manifestement. Merci pour ce 2e mois d'abonnement. Levin78, tu n'es pas du tout en retard, puisqu'on vient seulement de démarrer. Merci pour le resub, merci pour le 5e mois. Nicolas pour le 15e mois. Topska pour le 2e mois. The Voyageur pour les beats. J'avais pas vu le raid de Christopher Lee, mais vous êtes super. Vous êtes super. Ok, super, 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 super. On va parler, oui, on va aller voir ce qui s'est passé à la gare de l'Est rapidement, puisque au début, on parlait d'un incident technique à la gare de l'Est. Trafic totalement interrompu jusqu'à 10h, je ne sais pas si ça a repris. Et puis j'ai vu en partant de France Info que c'était peut-être un acte malveillant, donc on va aller voir les infos là-dessus. Ouais. Celtia Boîte pose une très bonne question qui est souvent posée ici, mais vous n'êtes pas là, obligé d'être là tous les jours. Bonjour Sam, si je souhaite me mettre à lire un quotidien, ce que je te conseille, comment savoir vers lequel me diriger? Tu parles d'opinion politique, de sensibilité, etc. Le conseil que je donne, c'est d'en essayer plusieurs, voire tous. Voilà. Peu importe ta sensibilité politique, parce que je te conseille pas déjà de lire un journal, en tout cas tous les jours, qui va justement dans le sens de ta sensibilité politique. Je m'explique. Si tu lis un journal qui correspond un peu à tes valeurs et à tes opinions sur le monde et sur la société, ben tu vas te voir conforté dans tes idées tous les jours. Tu vas être dans une espèce de bulle informative et finalement, tu vas dire, ben finalement, tout le monde pense comme moi, puisque regarde, dans le journal, c'est comme je pense, c'est comme je dis moi. Justement, on a une diversité éditoriale en France. Quand tu lis l'UMA, quand tu lis le Figaro, quand tu lis Libé, quand tu lis l'Opinion, quand tu lis les Échos, quand tu lis La Croix... Tiens, j'ai peut-être pas cité La Croix tout à l'heure, je sais plus. Ben, tu n'as pas le même regard sur l'actualité. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de se confronter à ces différents regards. Pour réfléchir, pour être bousculé, parfois par des arguments, des opinions. Donc, change, varie les plaisirs. Puis à un moment, tu vas peut-être trouver qu'il y a un journal qui te séduit plus. Pas seulement d'ailleurs par sa ligne éditoriale, mais par sa forme déjà. La maquette d'un journal, c'est important. Hein, la façon dont les articles, les photos... Les infographies sont agencées. Il y a la forme, il y a le fond, bien sûr. Il y a des journaux qui privilégient l'actualité internationale, dont Le Monde. Tu as beaucoup de pages internationales. Le Monde, d'ailleurs, commence systématiquement par l'actu internationale, enfin quasiment. Et donc, ça dépend de plein de facteurs. Donc, fais ton petit bonhomme de chemin, choisis, varie. Ne t'oblige pas, c'est important, à lire un journal tous les jours. Hein, il faut que ça reste un plaisir, donc il ne faut pas que ce soit une obligation, hein, genre ah, il faut que je lise le journal tous les jours. Non, il faut que ce soit un plaisir. Donc déjà, tu achètes le journal quand tu as le temps de le lire. Un journal, c'est 2-3 heures de lecture, hein, si tu prends ton temps. Donc il faut que ça reste un plaisir. Si tu as du temps dans ta journée, si tu prends le train pour un petit moment, voilà. Et puis voilà, plaisir et puis curiosité. Olivia85, merci pour le 8e mois. Lochter1, merci pour le 4e mois. Ce matin, par exemple, on lira pas mal La Croix, qui publie son enquête annuelle sur les Français et les médias, justement. La confiance, ou plutôt la méfiance aussi, des Français envers les médias, c'est une enquête annuelle, avec l'évolution à chaque fois de ce qui s'est passé pendant un an, c'est hyper intéressant. On lira ça notamment. Et je réponds encore à quelques-unes de vos questions, et puis et on enchaîne. Le Monde plus mon quotidien local, ça me va très bien, me dit c'est des bifs. En vrai, bon, c'est plutôt un bon choix, effectivement. Je suis d'accord. Daryl Révoque pose une question qui me fait très rire, c'est français ça. Beaucoup rire ce matin plutôt. Bonjour Monsieur Samuel Etienne. Ok, je viens de prendre 30 ans, donc j'ai 90 ans maintenant. Bonjour Monsieur Samuel Etienne, est-ce que c'est toi qui surligne en jaune tous les journaux?
Oui.
Si oui, tu mets combien de temps à lire tous ces journaux? Alors je les lis très vite, je les lis un peu en diagonale. Parce que bon, je lis très vite, c'est un des rares trucs que je sais faire. Et puis en plus, je sais à peu près ce que je cherche, c'est-à-dire comme j'ai l'actualité en tête, bon, je regarde le journal et je vois un petit peu ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau en termes d'infos, ce qui est nouveau en termes d'angle. Hein, qu'est-ce qui m'apporte quelque chose que je n'ai pas lu avant, quoi. Je le repère assez vite, après je lis l'article, je donne des coups de stabilo justement pour avoir des repères pour vous, parce que je ne lis pas tout l'article, je lis l'essentiel. Le problème, et c'est là où ça devient très très drôle, c'est que en semaine, je le fais avec les journaux papier que je lis à France Info, donc écoute Stabilo toute la matinée à partir de 3h du matin. Je les ramène ici. Ce matin, j'étais un petit peu pressé de vous retrouver. Du coup, je les ai oubliés. Donc, j'ai juste le Figaro Économie et les Échos, un petit cahier des Échos que j'avais mis dans mon sac parce que j'en ai pas parlé sur France Info. Tous les autres, je les ai oubliés à la maison. C'est ça qui est très très drôle. Donc je m'en suis rendu compte dans le taxi du retour et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à France Info? Est-ce que je vais chercher les journaux? Et puis j'ai dit ben non, tu sais à peu près ce que tu avais mis de côté. Donc en arrivant, j'ai re-téléchargé. Donc j'ai acheté tous les journaux en fait et j'ai retrouvé assez vite les articles que j'avais mis de côté pour vous. Voilà, alors il n'y a pas de stabilo, donc peut-être qu'il y aura quelques secondes parfois de réflexion sur ce qui me semble essentiel ou moins essentiel. La maison de la radio est pas chez ma maison professionnelle, c'est France Télévisions, c'est de l'autre côté, c'est en face de la maison de la radio. Voilà, donc comme je dis souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc j'aurais pu paniquer dans mon taxi à mi-chemin en rentrant en me disant putain la vache, c'est quand même 2-3 heures de lecture et j'ai tout oublié. C'est pas grave, j'ai tout retéléchargé à la maison, journal par journal, et j'ai retrouvé ce que je voulais vous lire. Voilà. C'est cher d'acheter tous les journaux, ça dépend des journaux. Alors quand tu les télécharges sur ta tablette, c'est moins cher que si tu l'achètes dans ton kiosque, tout simplement parce que pour le journal, il y a moins de frais, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de portage, etc. Donc je sais pas, entre 1,50 et 3,50€, ça dépend des quotidiens. Une bonne nouvelle pour Nico. Bonjour Monsieur Samuel. Ah non, arrêtez de m'appeler Monsieur. J'espère que vous allez ralentir sur le traitement du sujet retraite. On parle pas de retraite aujourd'hui. Bon, on va pas ralentir à la base pendant quelques semaines parce que c'est un sujet essentiel, important de l'actualité politique et de l'actualité tout court. Hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de Français qui aimeraient savoir à quelle sauce ils vont être croqués quand ils vont prendre leur retraite. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien de très nouveau. Et donc, pour ne pas vous saouler, justement, il n'y a rien sur les retraites aujourd'hui, parce que pas la peine de lire les articles s'il n'y a rien de vraiment nouveau. Voilà, pour ceux qui commencent à en avoir un petit peu marre. Je remonte dans le chat pour lire un ou deux petits commentaires encore. Je vois un bonjour de Roumanie. Salut, Sinternum, c'est sympa. C'est cool. Ok, je vois le Twitch de Pete qui lit l'actu sur son téléphone le matin. C'est cool, ça aussi. Ouais, Antoulm, l'appli caféine, vrai plaisir pour l'accès aux journaux. Dommage qu'il manque tant de journaux importants. C'est vrai. Il y a même des journaux importants qui en sont partis. Du coup, moi, je suis plus abonné à caféine parce que c'est moins intéressant que ça ne l'a été. Hein, les agrégateurs, justement, de journaux, là. On démarre, me dit Gervais Martel, qui m'engueule un petit peu, qui me trouve trop bavard. Normalement, on fait 30 minutes d'intro, on se raconte un peu nos vies, tout ça. Mais Gervais est très, très pressé, donc j'ai bien envie de qu'on y aille aussi. Allez, on y va, on y va. Pépin Camille me dit tant mieux parce que c'est très anxiogène la retraite. Oh, une grosse partie de l'actu est un petit peu anxiogène quand même. Avec ta mémoire, tu vas pouvoir nous les réciter par cœur. En vrai, je pourrais vous raconter les articles qui m'ont intéressé ce matin de tête. Vrai, je pourrais vous faire une revue de presse comme ça. En 5-10 minutes, mais ça manquera un petit peu de précision, quoi. Allez, est-ce que... Ah, d'abord, on va peut-être mettre fin à la prévision. Tenez, alors j'ai pas téléchargé l'équipe parce que j'ai lu l'équipe rapidement ce matin, il n'y avait pas un milliard de trucs à vous raconter du côté de l'actualité sportive. Je vais quand même vous montrer la une, voilà, gratuitement, quoi. Du coup, je fais un peu les économies, là. Elle est où, ma une de l'équipe? Peut lire le journal, voilà. Elle est ici. 2,49 par exemple pour l'équipe. Tenez. Hop, je vous montre en tout petit. Là. Ah, est-ce que tu vas t'allumer, chouchou? J'ai pas testé ma tablette ce matin parce que j'ai tout branché à l'arrache. Alors. Bah c'est normal, c'est parce que je pense que l'appli n'est pas ouverte si elle est là. On va la relancer. Hop, ne bougez pas. Tac, tac. Donc pour mettre fin à la prévision pour ceux qui ont. Mis des points de chaîne, sur le match d'hier. Bougez pas, je reconnecte, je déconnecte. Voilà, ça, je l'ai pas testé ça ce matin. Alors, je vais faire ça. Oui, alors je sais, c'est pas du tout sur le bon port. Hi, comment j'aurais paniqué à une époque. Et bim, c'est presque devenu trop facile. Voilà, donc en tout petit. Alors elle est drôle cette une de l'équipe, parce que donc ce que vous voyez ici, c'est la une de l'équipe que je ne vais pas télécharger, parce que j'ai pas d'article à vous lire. Et ça coûte quand même notre histoire 2,49€, je sais pas si vous voyez ici. Il n'y a pas de petites économies. Donc c'est retour sur le match entre Pays de Cassel, les amateurs là, qui était voilà, une toute petite équipe contre le PSG hier. Voilà, 7-0. Oh, c'est la caméra qui a bloqué. Ok, c'est normal, parce que j'ai justement joué avec les sources. Donc regardez, je vais corriger ça en 2 secondes. Non, me dis pas que c'est déjà réparé. Pff, mais c'est fatigant d'être aussi doué. C'est fatigant d'être devenu aussi doué sur un plan... informatique. Ça me fatigue même. J'aimerais qu'il y ait plus d'accidents. Et donc, c'est très drôle parce que, bon, alors 7-0 pour le PSG, hein, pour ceux qui ne savaient pas, 7-0, victoire 7-0 pour le PSG qui s'est qualifié pour les 8e de finale. Attention d'ailleurs, 8e de finale parce que tirage au sort hier soir. Non, c'est pas le PSG qui s'est pris une tôle, ce sont les amateurs. 7-0, et attention, 8e de finale, ce sera contre l'OM. Donc, on a un 8e de finale complètement fou. Hein, je crois que c'est début février. Entre le PSG et l'OM, ça va être un match de fou. Et effectivement, comme le dit Limulus, je crois bien effectivement que c'est la première fois qu'un joueur du PSG marque 5 buts en l'espace d'une rencontre, puisque Mbappé, Kylian Mbappé, sur les 7 buts, c'est un score de baby-foot, dit Aaron Deal, c'est pas faux, en a marqué 5. 5. Voilà. Donc c'est assez énorme. Et alors pourquoi, vous voyez, en tout petit là, pourquoi l'équipe titre deux classiques toujours plus chics, ça n'a rien à voir avec les amateurs battus 7-0 hier soir. Tout simplement, c'est le classico. Hein. Puisque PSG-OM, OM-PSG, c'est un classico. C'est un classique, comme on dit en foot. Et donc, on va avoir deux classicos à venir. Parce qu'il y a donc ce huitième de finale OM, OM-PSG à venir là, et de 1, et puis il y a un match de championnat dans 3 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, également entre les deux équipes. Ça nous fait deux classiques toujours plus chic. Une fois qu'on a dit ça, bah, on va mettre fin au point de chaîne, voilà, et je vous montre ici. Ça, c'est ce que vous avez misé hier matin, hein. Vous étiez 76% à avoir parié 4,8 millions de points de chaîne sur la victoire du PSG. Donc voilà, vous avez mis vos points de chaîne sur ce qui statistiquement était le plus plausible. Bon, vous avez été 24% à avoir été aventureux, à avoir tenté le tout pour le tout en vous disant pourquoi pas sur un match, tout est possible. Let's go, les amateurs, le petit pousset va battre l'équipe de stars, voilà. Et voilà. Mais 24% quand même, hein, avoir parié 1,5 million de chaînes, je suis un peu triste pour vous. Mais donc ce sont ceux et celles qui ont parié sur la victoire du PSG qui vont faire le point. Donc on va choisir la réponse ensemble. Voilà. Qui va gagner ce match, voilà. Pays de Cassel 1, PSG 2. Alors je vois moi dans le chat des gens qui ont le badge 1 ou 2, donc je vois qui a parié. Sur quoi? Je vois par exemple Svrin 17 qui est très triste, qui a joué sur les amateurs, Occitanien qui est très triste aussi. Voilà. Alors ce qui est très drôle, c'est que le résultat, vous l'avez. Mais moi, après, je clique sur ce que je veux. Là. Qu'est-ce qui... Hein, les gens qui ont joué, qui ont parié sur Pays de Cassel, si je veux, je décide là, maintenant, tout de suite, que c'est vous qui avez gagné. Je décide que c'est vous qui allez faire le plein de points. Qu'est-ce qui m'en empêche, en fait? Littéralement, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Totoni dit à chaque fois tu fais la blague, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'empêche de cliquer sur 1 là? D'ailleurs, je vais le faire. Hein, parce que Totoni dit ah, tu fais la blague. Mais. Et si on allait au-delà de la blague? Très bonne ref, Guigui du forum. La peur, peut-être. La déontologie, dit Neferim. Ton honnêteté, me dit Magros, comment vas-tu? Ouais, regardez, je vais le faire. Pays Cassel. Et voilà. Et voilà. Hein. Et oui, et je vais cliquer sur terminer la prédiction maintenant. Voilà. Hein. Mon honneur de journaliste, l'intégrité, tout ce que vous évoquez là, eh bien, j'en fais fi. J'en fais fi. Quelle indignité, me dit ça, qui est sur le service public en plus, qui a mis tous ses points sur le PSG. Rock'n'roll, Sam, exactement. Pause. Oh, j'adore ce commentaire de Fred là dans le chat qui me dit pose cette souris calmement maintenant. Fred qui a mis des points sur le PSG. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Trop de respect pour l'actu, bien sûr. Hélas, je ne peux pas jouer avec l'actualité. Je ne peux pas faire ça. Pas un journaliste. Non. En plus, il y a Yoascon qui menaçait d'appeler Élise Lucet. Donc, hors de question. Ok. Terminer la prédilection. Est-ce que vous êtes sûr que le PSG a gagné le match? Ben oui, 7-0. Eh oui. 3, 2, 1. Certains vont faire le point de chaîne, certains vont les perdre. Let's go. Et là, des points de chaîne. Des millions de points de chaîne. Voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà. Ouais, 7-0. Tu n'es pas assez rock'n'roll pour le faire. C'est-à-dire que je peux être rock'n'roll sur 2-3 trucs. Mais pas sur l'info, enfin pas sur le respect d'une info, quoi, hein, vous êtes d'accord? Allez, on est parti pour un, je vous quitte à 13h aujourd'hui, donc on fera un stream de 3h seulement. Hier on a fait un stream de 4h, je crois, n'importe quoi, mais 4h, alors que je m'étais engagé vis-à-vis de moi-même à ne plus dépasser les 2h30 de stream le matin. Pff, 4h, ce matin c'est 3h max, j'ai un rendez-vous, j'ai un déjeuner avec le président à 13h30. Eh oui. Déjeuner en tête à tête même avec le président tout à l'heure. Eh ouais. On a des trucs à se dire. Le président. Ouais. Ah ouais. C'est ma vie. Vis ma vie de Samuel Etienne. Ouais, c'est comme ça. J'ai des trucs à lui raconter. Ouais. Le président de France. Voilà, bonne question de Pingouin Frileux. Quel président? Le président d'une association qui s'appelle Pompiers et d'Aventure, qui est une très belle association dont je fais la promotion, puisque c'est l'association dont je suis le parrain depuis 7 ans. Pompiers Raid Aventure. Pourquoi pompiers? Parce que ce sont des pompiers, ce sont des fous de course à pied, c'est des malades, hein, pour eux 42 km, un marathon c'est juste une blague, ils aiment se faire mal, ils courent souvent sur des distances bien plus longues, et ils emmènent dans leurs courses en France et aux quatre coins de la planète des enfants en situation de handicap physique, voilà, les enfants qui le plus souvent ne peuvent pas marcher, et les emmènent dans des petites charrettes, des petites chaises à porteurs qu'on appelle des joëlettes, voilà, un siège le plus confortable possible, et deux bras devant, deux bras derrière, un coureur devant, un coureur derrière, et on emmène ces enfants, qui parfois sont devenus adultes, parce que l'association existe depuis très longtemps, courir avec nous un peu partout, voilà, notamment en France et puis aussi à l'étranger, souvent des très longues courses. Voilà. Donc je suis leur parrain depuis 7 ans, j'ai beaucoup couru avec eux, un peu moins depuis que je stream, par manque de temps, mais là je déjeune avec le président. Ne me lance pas là-dessus, objectif économie live. Si tu me lances là-dessus, je vais vous faire tout le stream là-dessus. Je ne peux pas faire ça. Objectif économie live dit: salut Sam, est-ce que c'est toi le journaliste de France TV qui a dîné à l'Élysée afin de prendre les éléments de langage pour présenter la réforme des retraites aux Français? Je suis tellement, comment dire, je pourrais passer le stream sur cette affaire. Je pourrais passer le stream sur cette affaire. Et ça vous surprendrait ce que je vous dirais là-dessus. Cette histoire, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et vous allez être surpris, parce que j'en ai vu des tweets là-dessus ce matin. J'ai failli faire un grand tweet là-dessus pour dire ce que j'en pensais, quitte à m'attirer les foudres de certains de mes confrères, d'ailleurs. Et je ne l'ai pas fait, parce que je me dis, tu vas encore mettre une pièce dans un truc. Alors, je vous raconte. Je crois que ça part d'une journaliste du Parisien, qui est invité d'une émission sur les médias, je crois que ça part de là, et qui dit, un peu en mode beaucoup de gourmandise, qui dit: tenez-vous bien, le président Macron a invité à petit déjeuner ou à déjeuner, éditorialistes, donc c'est des journalistes qui écrivent des billets d'opinion, quoi, ils donnent un petit peu leur avis sur l'actualité à l'Élysée. La phrase, c'est pour leur donner des éléments de langage, ce qu'on appelle les éléments de langage, sur la réforme des retraites. Voilà, pour qu'ils aillent porter la bonne parole. Je l'ai vu la vidéo. Donc c'est ça, des éléments de langage. Vous voulez qu'on parle de ça ou pas? Vous voulez qu'on parle de ça? Parce que là, je fais une demi-heure là-dessus, si on parle là-dessus. On fait un vote. Je vous ai prévenu, hein, si on parle là-dessus, c'est une demi-heure. Sondage. Ça, c'est un raid. On va pas faire un raid maintenant. Sondage. C'est vous qui décidez. Mais je vous aurais prévenu, ça va diminuer un peu la revue de presse d'autant. Nouveau sondage. Dans ce cas-là, on écoutera la vidéo. Parle-t-on ensemble, hein. De ce rendez-vous Macron journaliste. Oui, non, je ne sais pas. Voilà. Sachant que je vais vous proposer une analyse qui est assez... je vais vous dire les termes, hein, je vais vous dire ce que j'en pense de cette histoire. Et puis après, je vous dirai aussi, ce n'est que mon opinion et je peux totalement me gourer. Hein. Mais je vais vous donner mes éléments à moi là-dessus. Parce que je trouve que, pour le coup, les manipulés ne sont pas qui on croit. Et les manipulateurs ne sont pas forcément qui on croit non plus. Alors, sondage, et je respecte votre vote. Vous avez vu que je vous en ai pas parlé, mais c'est venu du chat. Voilà. Je regarde le résultat. On écoutera la vidéo qui est très courte. Puis je vous explique tout. Oh là là, c'est un oui massif. Bon, alors j'attends un petit peu que vous votiez, mais je vais quand même d'ores et déjà voir si je retrouve la vidéo. Bon, ça va se trouver très très vite, ça. Donc c'était sur France 5. Je crois que la journaliste qui lance le truc, elle s'appelle Ève Roger, je la connais, c'est une consoeur que j'ai croisée à Europe 1 et qui travaille au journal Le Parisien désormais. Voilà. Objectif Economy Live me dit que tu me l'as envoyé en DM. Je ne l'ai pas en DM. Je l'ai pas. J'ai un message de la LICRA, d'ailleurs, qui est intéressant, que j'avais pas vu. D'accord. la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, je ne vois pas ton message en DM. Mais je vais le trouver, hein, c'est en deux secondes. Hein. Qu'est-ce que donne le sondage ? Allons voir et hop, et allons chercher la vidéo. Pof, le sondage, bon, bah, c'est 86%, c'est oui. Bon, d'accord, ok. Bon, très bien. Après, c'est intéressant parce que c'est une façon de... Voilà, à un moment, c'est ce qu'on appelle la mise... Ouais, enfin, on prend une info, puis à un moment, on la décortique un petit peu. On la décortique, on essaie de d'aller derrière cette information, quoi. Voilà. Ok, 86% de oui, 9% de non. Pardon pour les 43 qui ont voté non. Mais c'est clairement un grand oui. Donc, on termine le sondage. Ok, on retourne sur Twitter, on trouve la vidéo, ça va prendre deux secondes. L'émission, c'est l'émission C'est Médiatique. Voilà. Présentée par l'excellente Mélanie Taravant, qu'on a reçue dans l'Hebdo Atienne, ici d'ailleurs, et qui reviendra. Je vais la réinviter, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et donc, il a reçu Ève Roger, qui est journaliste au Parisien, qui est même directrice adjointe, je crois, de la rédaction, qui a travaillé aussi à Europe 1. Voilà. Et on va voir cette séquence qui, je pense, a été postée sur le compte Twitter de C'est Médiatique. Où est-ce qu'il est ? Je vous montre ce que je suis en train de faire. Ça, c'était le 15 janvier, la dernière émission, elle est là. L'affaire Outreau, les gros mots, c'est fini sur YouTube. C'est une actualité, c'est une émission sur l'actualité médiatique au sens large, donc y compris aussi sur Internet. Ok, voilà Mélanie Taravant qui est venue à la maison. Alors, où est cette vidéo ? Ok, ils l'ont pas postée sur le compte. D'accord, ok. Très bien, on va la trouver. Alors, on va taper Macron journaliste et on va trouver tout de suite la vidéo avec des réactions courroucées d'ailleurs. Ah bah voilà. Voilà, bon bah elle est partout, voici. Donc voici par exemple la vidéo ici qu'on va écouter, hein, qui dure 2 minutes, et par exemple une réaction de Bastien Lachaud qui dit sur Twitter « Macron organise un déjeuner confidentiel avec les principaux éditorialistes pour leur souffler les éléments de retraite pour défendre sa réforme des retraites. » Ils se prétendent journalistes, ce sont les valets, boum, et les chiens de garde du pouvoir, boum, sachez-le quand vous les écoutez. Donc ça, c'est l'analyse de Bastien Lachaud qui nous parle, il faut toujours savoir qui nous parle. C'est un député de la France Insoumise. Okay, donc ça, c'est sa réaction. Donc du coup, vous voyez, il y a 1000 retweets, il y a 1600 likes, donc voilà, on sent que voilà, ça crée beaucoup de réactions, d'émotions. Quand je vous lis les réactions, quelle honte voilà, c'est sidérant d'un point de vue déontologique. Voilà, je n'ai jamais aimé les valets. Peut-on avoir le nom des invités ? Ça, c'est des journalistes, ils n'ont pas de conscience professionnelle, ces gens-là. Bon, en même temps, quand on lit comme ça le commentaire du député LFI, on parle de déjeuner confidentiel. Confidentiel, c'est le secret, quoi. Voilà, et on nous décrit un président Macron qui souffle des éléments de langage. Hein, donc qui leur dit quoi dire en fait, hein, quoi penser, hein, c'est ça qu'on comprend, c'est assez clair, pour défendre sa réforme des retraites. Donc la critique des journalistes qui ont participé à ce déjeuner confidentiel, la critique par ce député LFI, on se dit, ah oui, c'est un scandale. Alors écoutons maintenant la chronique d'Ève Roger, qui d'ailleurs est un petit peu sur cette ligne-là aussi. Qui est un petit peu sur cette ligne-là. Écoutons et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, puis je vais vous dire ce que j'en pense aussi. C'est parti, 2 minutes.
Alors, avant ce moment-là, il n'y avait eu aucune prise de parole officielle.
Mais si, mais en coulisses. Ah. Seulement, vous allez comprendre, 2 jours avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes.
Déjeuner, le président et 10 éditorialistes. 10, pas un de plus, pas un de moins.
La liste de la presse parisienne, convoquée à peine 24 heures avant, une rencontre en toute discrétion.
Rencontre en toute discrétion, donc on sent le truc secret un petit peu. On est à la limite du complot, hein, en toute discrétion.
Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique.
Et on balance le nom des confrères, tant qu'à faire. Hein, c'est parti, Tabar, ceux. Hein, on donne le nom des. On donne les noms des médias. Alors première remarque, vous allez dire que je suis un petit coquin quand même. Donc Ève Roger, là c'est pas marqué à l'écran, mais Ève Roger, elle est journaliste au Parisien. Et puis, oh, Tiens, oh bah le. Ah, le Parisien. Est... Bah, le Parisien n'a pas été invité? Oh! Ok, d'accord. Donc, bon, on va pas dire que c'est une façon de, comment dire, de se venger un petit peu de ne pas avoir été invité, alors que Le Monde était invité, France Télévisions était invité, BFM était invité, RTL était invité, France Inter était invité, Le Figaro était invité, Les Échos, mais pas Le Parisien. Donc, bon, déjà, c'est intéressant d'avoir un peu toutes les infos, puisque là, à l'écran, personne ne nous dit qu'Ève Roger travaille pour Le Parisien. On continue.
Ceux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. L'objectif de l'Élysée.
Attendez, il y a mon petit Solal. Hein? T'es trop beau, mon chéri. Ah là, il faut que je travaille parce que je suis. Non, c'est interdit. Garde ton bonnet. Je t'aime très fort. Donc, on en était à... Hop, ça balance, ça balance. Avec un ton un petit peu... Je vais vous raconter les coulisses, je vais vous raconter le truc que personne ne vous dit. Hein? Donc, ça, on tend l'oreille, on se dit, mais c'est vrai, on nous cache tellement de choses. Quoi.
C'est qu'Emmanuel Macron, disent-ils, la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin...
Parisien n'est toujours pas invité, manifestement. Donc, ça veut dire que... Il n'y a pas d'éditorialiste influent parisien? Bon.
Que la parole présidentielle...
Bien sûr que si.
...qu'elle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence.
On réécoute cette phrase donc. Donc quelle est l'intention du président Macron ici? Pour le coup, ça c'est vrai.
Aux 10 journalistes les plus influents de la presse...
Non, Solal, je travaille. Tiens. Là, ce que dit Ève Roger, c'est vrai. Quelle est l'intention du président Macron quand il invite 10 journalistes comme ça?
Parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence.
Donc on donne des éléments de langage, c'est ce que dit Ève Roger, le président, auditorialiste, pourquoi pas, pour que ces éléments de langage infusent dans l'opinion. Quoi. On est à la limite du complot, de la manipulation du pays, quoi, hein, quand on écoute ce discours.
Mais il y a une condition de taille.
Condition de taille.
À ce déjeuner, les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer.
Ah bah, du coup, c'est le secret raté, très bien tenu, notamment avec vous, Ève. C'est raté.
Non, c'est vrai que c'était un secret de Polichinelle et dès le lendemain matin, la newsletter politique qui s'appelle Politico dévoile l'existence de ce déjeuner.
Donc, déjà, on voit que ce n'est pas un scoop du Parisien ni d'Ève Roger. Et donc, assez honnêtement, elle dit que ça ne vient pas de moi, ça vient d'une feuille d'information politique qui s'appelle Politico.
Confidentielle. Alors, c'est fait avec subtilité. Ils disent, le chef de l'État ne se serait-il pas directement épanché auprès de nos confrères? Ça, c'est drôle, le secret est évidemment inventé. 40 000 abonnés lisent cette lettre tous les matins. Et puis, autre preuve de cette rencontre, les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces.
Deuxième partie de la démonstration d'Ève Roger.
Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauz publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase, Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité.
Pause. Donc là, qu'est-ce que dit Ève Roger? Donc, un déjeuner secret, 10 éditorialistes convoqués par le président, des éléments de langage pour convaincre les Français de la nécessité de sa réforme, pour laisser infuser ses idées et pour convaincre l'opinion. Voilà un exemple ici donc sur France Inter. Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. Manifestement, des mots qui ont été prononcés lors de ce déjeuner par le chef de l'État, ça, il n'y a pas de doute. Mais regardez quand même, il y a un petit détail qui est très intéressant. Ce sont les guillemets. Il ne faut pas les rater, les guillemets sont super importants. Donc, ce n'est pas le journaliste qui ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. Qui prend ça dans sa bouche, sous sa plume, pour dire aux Français, bon, ben, effectivement, la victoire des opposants à cette réforme, ce serait une victoire de l'irresponsabilité. Il y a des guillemets. C'est une citation. Hein, le journaliste dit que Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité Alors, c'est pas très clair de savoir si c'est Macron qui a prononcé ces mots, puisque dans le deal, c'est souvent ça, c'est ce qu'on appelle le off en politique. Le deal de ce déjeuner, c'était de dire que ces mots ne venaient pas forcément de Macron, mais de l'Élysée. Effectivement, dans l'article, il est dit qu'à l'Élysée, eh bien, on ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. L'Élysée, c'est qui? C'est Macron. Donc, c'est assez transparent quand même. Les guillemets sont importants.
Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays ni à la victoire de l'irresponsabilité.
Tiens, des guillemets encore. Donc c'est pas Mathieu Gohard qui ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ou qui estime que les victoires des opposants à cette réforme seraient une victoire de l'irresponsabilité. C'est bien le chef de l'État. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. La première journée de manifestation contre ce projet sera un test aux yeux du chef de l'État. Qui ne croit pas à un blocage total du pays, une victoire de l'irresponsabilité. Là, c'est même encore plus transparent. Ce n'est pas l'Élysée qui le dit, c'est le président Macron. Voilà. Donc, c'est une citation, comme il pourrait y en avoir 1000 au quotidien de tous les responsables politiques. Voilà ce que pense machin.
Responsabilité. Voilà. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens.
Bah oui, bien sûr, puisque ils étaient tous au même déjeuner et le président Macron a prononcé ces mots. Donc. Le fait que ces mots se retrouvent sous la plume de tous ces journalistes, puisque c'était devant la même personne qui a prononcé les mêmes mots, ça veut juste dire qu'ils n'étaient pas sourds, quoi.
Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité.
Côté de l'exécutif, on explique que Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. Bon, c'est toujours une citation.
Et ni à un pays à feu et à sang, comprenez, totalement paralysé.
Voilà, victoire de l'irresponsabilité. Et parmi tout ça, bah, les journalistes arrivent quand même à ne pas citer...
Alors maintenant, je vous lis... Donnez-moi votre analyse là-dessus, et puis on en parle, et puis on en parle ensemble. Je pense que vous avez à peu près compris là où je voulais en venir. Alors, Merguez Junior écrit, on sait que c'est une citation de Macron, mais en quoi ça change le problème de fond? Bah parce qu'en fait, le problème c'est que cette séquence vidéo, et même l'analyse d'Evranger, ça nous parle d'un déjeuner secret, qui n'est pas si secret que ça, puisqu'il sort dans les journaux, manifestement, tout le monde est au courant, donc le secret il est très relatif. Et puis pour souffler des éléments de langage pour défendre sa réforme des retraites. Ils se prétendent journalistes, ce sont les valets, les chiens de garde du pouvoir, dit par exemple cet élu LFI. Si des journalistes s'étaient rendus à un déjeuner secret pour entendre la bonne parole et la répandre, c'est-à-dire en reprenant dans leur voix, dans leur plume, dans leurs mots, en tant que éditorialiste de l'Express, du Point, du Monde, que sais-je, cet argument comme quoi ce serait une victoire de l'irresponsabilité de voir cette réforme battre en retraite, bah ce serait extrêmement choquant, ce serait un scandale. Ces gens ne mériteraient pas ce terme de journaliste, effectivement. Hein, les journalistes sont là pour constater, pour rapporter les propos les uns et des autres. C'est ce qui est fait là. C'est ce qui est fait là. Voilà. C'est ce qui est fait. Donc ce n'est pas des journalistes qui reprennent les mots du président en ne disant pas qu'ils viennent du président, ce sont des journalistes qui reprennent les mots du président en disant qu'ils viennent du président. C'est ce que font tous les journalistes tous les jours. Voilà. Donc il y a R, comme dit l'ami étoile. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste du journalisme classique en fait. Voilà. La question que je me pose ce matin, c'est... Est-ce que le fait que le Parisien ne soit pas invité à se déjeuner, en fait, ait pu motiver à un moment cet édito d'Ève Roger qui trouve ça un petit peu... on comprend qu'elle trouve ça un peu scandaleux, un peu secret, un peu, alors que c'est juste le truc le plus classique du monde. Les ministres, en fait, font des déjeuners, des petits déjeuners, des dîners en permanence avec les journalistes pour leur donner des éléments de langage, pour leur expliquer leur point de vue. Et puis après, le journaliste, il va déjeuner aussi avec un syndicaliste, il va déjeuner avec des gens qui sont opposés à cette réforme, qui vont leur donner d'autres éléments de langage qui sont les leurs. Et après, le journaliste, eh bien, il rapporte tout ça. Mais il y a R, en fait. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Voilà. Alors, est-ce qu'Ève Roger... était un peu en colère que le Parisien, moi je pose la question, hein, n'ait pas été invité à ce déjeuner. Voilà. Moi je pose la question, vraiment. Quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux en venir? Et puis clairement, en tout cas les exemples pris par Ève Roger pour faire un peu mousser l'histoire, c'est des citations, on voit des guillemets, c'est pas des gens qui font mine de penser avec les mots de Macron, c'est des gens qui citent le président Macron. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez, moi ce qui me gêne un peu dans cette chronique, et aussi, alors du coup ça a provoqué plein de réactions sur Twitter, notamment en disant, vous voyez, on est manipulé, quoi. Mais qui manipule qui, quoi? Ben, je suis un peu gêné par cette analyse, Et du coup, par tout le populisme que ça peut créer, en mode, vous voyez, on vous ment, on vous cache les choses, on vous manipule. Quoi. Il y a zéro manipulation, en fait, dans cette histoire. C'est mon sentiment, mais je peux me tromper, hein, c'est mon analyse. Hein. Je veux lire la vôtre aussi. Edith Drag, par exemple, c'est intéressant ta question. Quel est l'intérêt de ce déjeuner pour le gouvernement à l'Elysée? Pourquoi pas une conférence de presse à la place? Si c'est une réunion sans micro en petit comité, c'est bien que l'Elysée compte là-dessus pour influencer, convaincre. Ou alors, il y a aussi une stratégie, puisque ça va fuiter, d'accroître la méfiance des gens vis-à-vis des journalistes. Cette méfiance profite seulement au pouvoir, selon moi. En fait, ce truc-là qui vient de se passer, ça se passe sans arrêt, en fait. Hein, des petits déjeuners entre des gens de pouvoir, qui peuvent être des chefs d'entreprise, qui peuvent être des syndicalistes, qui peuvent être des politiques, des ministres, des élus, tous les représentants de quelque pouvoir que ce soit, c'est permanent en fait. Alors après, c'est au journaliste, lui, de trier et de se faire sa propre opinion par rapport à toutes ces infos. C'est comme quand je lis les journaux, c'est pas parce que c'est écrit dans le journal que j'estime que l'info elle est juste. Je la compare, je doute, je la remets en question. Voilà. Là, par exemple, le propos d'Ève Roger, c'est une consoeur... très respectable, dont j'apprécie le travail, je pourrais prendre sa chronique au mot près, ben non, je m'interroge par exemple. Donc tout ça n'est que du journalisme, quoi. Mais je vais lire tous ceux qui sont pas d'accord avec cette analyse. Alors après, ça c'est une vraie question. PVP cash, je trouve ça dérangeant que des éditorialistes soient invités à des déjeuners avec des politiques, honnêtement. Ça c'est une vraie question. Ça existe depuis la nuit des temps, voilà, c'est non-stop, ministre, président, premier ministre, membre de l'opposition, je vous le disais, syndicaliste et tout. Après, ça pose des questions. Je sais que dans les pays nordiques, par exemple, je pense que je ne suis pas sûr que ce genre de pratique soit accepté. Voilà. Et ce n'est pas parce que ça existe depuis la nuit des temps que c'est une bonne chose. Ce qui me gêne, c'est de faire passer un truc qui est juste, qui se passe tout le temps chez nous, dans notre pays, mais qu'on pourrait remettre en cause, ça c'est vrai, en mode, c'est un truc exceptionnel, des journalistes reçus à l'Elysée pour leur faire passer des éléments de langage. En fait, c'est non-stop de tous les côtés, quoi. Et en fait, ce qui me gêne, c'est de le faire passer pour un truc exceptionnel, un truc en mode un peu manipulation, complot, etc. quoi. Alors que c'est le truc le plus banal du monde, vous comprenez? Après, sur le fond, que les journalistes reçoivent en petit comité, là ils sont 10, mais souvent il y a des déjeux, quoi. C'est des tête-à-tête, quoi. Ça pose question. Mais c'est un autre sujet. Un autre sujet. Tu vois, par exemple, Nérou, je dis, est-ce qu'ils ont payé leur déjeuner, les journalistes? Non. Hein. Mais pas plus qu'ils payent. Quand le patron du MEDEF, pour prendre que cet exemple, au MEDEF, il y a une salle à manger là-haut, très très chic, avec une vue sur tout Paris. Quand le patron MEDEF reçoit un journaliste, des journalistes, 10 journalistes, 20 journalistes, pas quotidiennement, mais souvent, bah c'est pareil. Ils ne payent pas leur déjeuner, quoi. Donc, sous certaines démocraties, notamment nordiques, je pense que ce serait un vrai problème. Bon, bah chez nous, bah c'est comme ça, depuis toujours, tout le monde le sait, voilà. Donc ça, on peut en parler. Mais de faire passer ce truc très courant pour un truc un peu exceptionnel, bah c'est embêtant, en fait. C'est embêtant. Moi, je trouve que c'est un peu faire mousser sa petite chronique, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que derrière, vous avez des réactions sur Twitter qui viennent nourrir un sentiment très, très populiste vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des journalistes, quoi. Flokiscar, rien de choquant pour moi. Combien de fois des journalistes ont été invités par des syndicats, par exemple, pour que ces derniers donnent leur avis, leur conception des choses? Tant que c'est des citations, ils font juste leur boulot pour le coup. Allez, lisons, et notamment les gens qui ne sont pas d'accord avec mes arguments, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas parité des médias? Il invite qui veut? Tiens, voilà, ça c'est un problème. Mafalé à 85, ça c'est une vraie question. Là, il a invité, bon, la journaliste l'a cité, France Inter, France Télévisions, BFM, il y avait Le Point, je crois, de mémoire. Il y a pas, je ne crois pas qu'il y ait l'Humanité, par exemple. J'ai pas vu, je crois pas avoir vu La Croix. Bon, après, il y a plein de médias, on ne peut pas inviter tout le monde. Mais c'est une vraie question. Bon, il n'y a pas eu Le Parisien, ça on l'a bien compris. Je crois pas que Libération n'a peut-être pas été invité non plus. Ça c'est une vraie question. Pourquoi on invite 10 médias et pas les autres? Voilà. Ça c'est un vrai truc, mais toutes ces questions là elles sont légitimes. Mais encore une fois, ce qui me gêne, c'est de faire passer un truc super courant pour un truc qui ne se fait jamais, quoi. Je pense que c'était pire avant. Je réponds à Céphalide qui dit « Il est tout de même étrange que le peuple et le citoyen que je suis avec le temps aient l'impression que l'exécutif devient de plus en plus secret sur les relations qu'il peut avoir avec des sphères de pouvoir ou les sphères médiatiques. Le peuple a de moins en moins confiance en la politique, Samuel, ça c'est vrai. Et cela n'est pas recréer le lien, c'est vrai aussi. » Je pense que c'était pire avant. Je pense que c'était encore plus opaque avant. Mais comme il y avait beaucoup moins de... Comment dire tout, comme c'est, justement, comme c'était moins transparent, les choses ne se savaient pas. Et donc c'était pire encore avant. Mais on ne le savait pas. Donc ce genre de pratique, je pense qu'elle pose question et il faut peut-être les remettre en question. Mais encore une fois, je préférais que, en gros, si Yves Roger avait fait sa chronique en mode « Bon voilà, 10 journalistes invités à l'Élysée, c'est quand même dommage, c'est un peu opaque, c'est pas public, tous les médias ne sont pas invités. » Tout à l'heure, quelqu'un me disait « Pourquoi pas une conférence de presse hein ?» voilà. Et dénoncer le truc sur le fond. Bon là je dirais bon bah ouais c'est un vrai sujet, mais le faire comme ça là, c'est moi ça me gêne un peu. Flèche Azur me dit, mais le MEDEF ne paie pas le repas avec nos impôts. Non, avec les cotisations des entreprises. Donc c'est, on est à la limite de l'abus de bien social, Flèche Azur. Donc c'est aussi grave, je pense. C'est aussi grave. Attention, je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je dis que c'est courant. Je dis que sur le fond, je ne dis pas que sur le fond, ces invitations de journalistes par les gens qui ont le pouvoir... économique, syndical, politique, sportif, etc. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est courant. J'ai dit que c'est comme ça aujourd'hui. Et essayer de faire croire que ce n'est pas le cas, que c'est exceptionnel, comme je trouve le fait Yves Roger ici, en disant, vous avez vu, le président a invité des journalistes pour leur donner des éléments de langage. En fait, c'est ce qui se fait depuis la nuit des temps, de partout, dans tous les milieux. Et c'est ça qui me gêne, en fait. Donc, je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est comme ça que ça se passe. Et il faut peut-être le dénoncer, mais il ne faut pas faire croire que c'est exceptionnel, en fait. C'est ça qui me gêne. Et là, on nourrit autre chose, du complotisme, de la défiance, du populisme aussi. Vous voyez la nuance entre les deux ? Par exemple, posons la question. Yves Roger est directrice adjointe de la rédaction, je crois, du Parisien aujourd'hui, enfin des responsabilités assez importantes du Parisien. Posons la question, toute simple. Si le Parisien avait été invité à ce déjeuner, il serait allé. Est-ce qu'on aurait eu cette chronique d'Yves Roger, à votre avis ? Question tout à fait innocente. Je pose la question. Voilà, la réponse est évidente. Donc, il y a un truc qui me gêne dans cette histoire, quand même. Il y a un truc qui me gêne. Le Parisien n'a pas été invité, pour des raisons que j'ignore. Ils auraient pu, c'est un excellent journal. Mais ils ne sont pas invités. Voilà. Et s'ils avaient été invités, Yves Roger nous aurait dit dans sa chronique, à un moment, on a été invité, mais on n'est pas allé. Donc, ça me gêne un peu, quoi. Ça me gêne parce que ça renvoie une très mauvaise image auprès de deux professions qui n'ont pas besoin de ça pour déjà être détestées et très critiquées par une partie très importante des Français qui sont les politiques et les journalistes. Voilà. Loin de moi l'idée de vous dire que ces deux corps sont peuplés de gens parfaits et de saints et de saintes, c'est pas le cas. Y a des gens qui font bien leur métier et d'autres moins. Mais franchement... on n'a pas besoin de ça déjà pour qu'on puisse nous remettre en question, puisque que ce soit les politiques ou les journalistes, il y a beaucoup de choses à améliorer de la façon dont ces deux univers travaillent. Mais ça c'est ni fait ni à faire, quoi. Ni fait ni à faire. Je vous lis un peu. Thank you. Astre-Héran, en fait, non. Joli Astre qui n'achète pas mon analyse et qui me critique, et t'as raison d'ailleurs, et qui me dit, donc en fait, vous réagissez simplement parce que vous y étiez en tant que média, parce que j'ai vu que France Télévisions y était, mais le cas aurait été inversé, vos chroniqueurs en auraient parlé et fait tout autant sur votre chaîne télé. Là, c'est juste une réaction de gamin piqué au vif. Alors, première remarque, Ève Roger fait son analyse là sur France Télévisions. Cette émission, c'est médiatique, c'est sur France 5, c'est sur France Télévisions. Donc déjà, France Télévisions laisse Ève Roger du Parisien parler d'un rendez-vous où France Télévisions était invitée. Donc déjà, France Télévisions en parle, parce que c'est chez nous. Hein. C'est chez nous. Première chose. Et puis, c'est pas parce que France Télévisions est invitée, je défends pas mon groupe ou ma chaîne. La preuve, c'est que France 5 qui vous raconte cette histoire, en fait. C'est aussi nous, finalement. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas d'histoire en fait. Ou alors elle est très mal racontée. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'il est normal qu'il y ait des déjeuners, des dîners, des petits déjeuners qui sont pas publics, voilà, qui sont pas ouverts à tous de la part d'hommes et de femmes de pouvoir avec des journalistes. Ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est pas du tout ce dont parle la journaliste du Parisien. Elle dit juste, voilà, on vous a organisé un truc secret. Des éléments de langage pour convaincre les Français un petit peu en douce, etc. Et en gros, elle sous-entend que c'est un peu un scandale, quoi. Et ce truc, c'est tout le temps, en fait. Donc c'est pas... C'est Ève Roger a dû participer à ce genre de déjeuner un millier de fois, donc je vois pas le... C'est l'angle, en fait, que je choisis qui n'est pas le bon, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été très gêné. En fait, ce qui m'a gêné, c'est pas tellement d'ailleurs la vidéo en tant que telle, ça aurait pu passer inaperçu, mais c'est toutes les rédactions derrière. Regardez. Voilà. Regardez les réactions. Voilà. Tous les journalistes à la solde de Macron, quelle honte. Donc on parle de la vidéo d'Ève Roger. Peut-être qu'elle s'attendait pas du tout, en fait, au buzz provoqué par sa chronique, mais regardez les réactions sur Twitter. On parle de cette petite vidéo. Et puis on arrive à Philippe qui dit « Tous les journalistes sont à solde de Macron. » Tous les journalistes sont à solde de Macron. Tous les journalistes sont à solde de Macron. Je vous lis tous les jours des éditos, hein, de journaux qui dénoncent cette réforme des retraites, par exemple. Donc, tous les journalistes sont à solde de Macron. Voilà ce que les gens concluent de cette vidéo. Ok. On continue. Voilà. Bonjour. Donc là, c'est une petite blague. C'est Patrick. L'Association nationale des journalistes lécheurs de bottes m'a désigné à l'unanimité pour interpréter l'ode à la profession à Emmanuel Macron. Voilà. Merci. Ben voilà, merci. OK. Voilà, on continue. Voilà, Macron, qui a reçu les journalistes du Monde, du Figaro, de BFM, l'Écho, France Inter, juste avant la grève, pour donner des ordres. Tout média est propagandiste. OK. Voilà. Cette histoire de Macron qui reçoit en secret des éditorialistes, le secret, le complot, qui répercute sagement ces mots sans le citer. Vous avez vu, je vous ai montré les guillemets, ce sont des citations. C'est la gangrène très française de la presse politique. Jamais les journalistes anglais, allemands ou américains n'accepteraient un truc pareil. Voilà. Vous avez bien appris la leçon. À tout prix, la parole du chef doit être divulguée dans tous les médias. C'est pour ça que Macron a reçu en douce 10 journalistes. Voilà. Donc tous les tweets sont sur cette analyse, en fait. Les valets du Monde et du Figaro. Voilà. Magouille. Manipulation. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc. Et je suis très gêné, en fait. Par ça, en fait. Là, en fait, on nourrit le populisme, en fait. Et ça nous emmène nulle part. J'adore le Danois qui dit « Je suis hors sujet, mais très important parce que France Info ne le dira pas. Attention, réunion secrète entre Macron et les journalistes collabos macroniens. » Voilà. L'info d'Ève Roger, elle le dit sur France 5, sur France Télévisions. C'est la même maison, quoi. Je kiffe, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que... Alors voilà, on part de cette chronique, voilà, que je trouve un peu maladroite, en me disant c'est dommage parce que là on mélange des choses, on ne dit pas les choses comme on devrait les dire. Et le résultat, ce sont des centaines, peut-être des dizaines et dizaines de tweets ici, qui vont être lus par les centaines et centaines des milliers de personnes, qui vont se voir confirmer dans le fait que tout ça n'est qu'une grande manipulation, un grand complot des politiques et des journalistes contre le peuple, quoi. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez bien vu que c'était des citations, en fait, que aucun des journalistes cités par Ève Roger dans sa chronique, en fait, ne fait sien les propos du président, et bien les présente comme des citations, comme on cite tous les jours, toutes les parties au conflit dans cette histoire de débat sur les réformes des retraites, et qu'on cite les journaux qui sont pour, Figaro, L'Opinion, un peu les Échos aussi. Voilà. Les journaux qui sont contre, Libération, L'Humanité, Le Monde, j'arrive pas à me faire une idée encore. Voilà, les journaux qui sont dans un entre-deux, voilà, Le Parisien, La Croix, voilà. Et c'est ça en fait la presse. Et c'est pas ce visage de la presse que me renvoie ici la journaliste du Parisien. Allez, je lis encore un ou deux commentaires parce que je pense que je suis très très long. Combien de temps là? Toc. Une heure, oui. Bon, on va enchaîner la revue de presse. Je lis encore un ou deux commentaires. Je remercie aussi les subs. Merci Gandalf Listari, modérateur et qui sub, 16e mois d'abonnement. Merci les modos, j'espère que ça se passe bien dans le chat pour vous ce matin. Béné, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement et pour le gentil message. Silvirus34, merci pour le 16e mois. Ça commence à faire Sandrine 3000, approche de son nouveau badge qui va apparaître dans un mois. Merci pour le 17e mois d'abonnement. Machine Linguiste, merci pour le 5e mois d'abonnement. Yosley, Olivia, Lochter, je vous ai remercié tout à l'heure, je crois. Voilà, c'est ça qui me gêne. Ribon TV écrit, parce que parfois vous résumez dans le chat beaucoup plus mieux mon propos, une pensée aux personnes sur Facebook qui verront ces mêmes commentaires dans 3 semaines. En fait, c'est ça, en fait. Après, ça va partir totalement en sucette, cette histoire. Je vous lis. Hein. Encore une fois, il y a plein de choses à dire très négatives sur la façon dont les politiques font de la politique en France. Franchement, le fossé, le divorce grandissant entre les Français et les politiques qui se traduit par une abstention grandissante à chaque scrutin, il est pour grande partie la responsabilité des politiques. Il y a plein de choses à dire. Sur les journalistes, sur notre façon de travailler, sur le fait qu'on est, on est certainement un peu déconnecté aussi des réalités, toujours un petit peu dans les mêmes histoires, et qu'on devrait aller plus sur le terrain au contact et à l'écoute des gens dans notre façon de travailler, plus en contact avec avec notamment la population et dans la façon d'expliquer notre travail. Là aussi, il y a plein de choses à dire. Voilà, on est loin d'être parfait, mais dénoncer un truc en fait qui est juste le truc le plus courant du monde, j'ai pas dit que c'était bien, en mode jouer sur la corde un peu secret et complotiste, provoquant ce qui devait se produire sur les réseaux sociaux en mode, vous voyez bien, tout le monde nous ment et tout le monde essaie de nous manipuler. Ça, c'est con parce que c'est passé à côté des vrais trucs, en fait. Voilà. Je suis un peu en colère. Hein. Je suis un peu en colère. Mais je suis d'accord, Nani Zeno, c'est vrai ce que tu dis. Je comprends ta position, Samuel, mais bon, à un moment donné, quand tu choisis tes journalistes, puisque le président Macron a choisi ses journalistes, il n'a pas invité tout le monde, tu t'exposes à ce risque. Mais tu as raison. Sur le fond, ce genre de rendez-vous est problématique. Mais dans ce cas-là, il faut dénoncer ce genre de rendez-vous entre une personne de pouvoir, qu'elle soit politique, syndicale, économique, etc., et des journalistes, voilà, sans que ce soit public, et en sélectionnant les journalistes. Ça, sur le fond, ça pose question. Voilà. Alors que c'est un truc super banal, mais ça pose question. Ça, on devrait le remettre en cause. Mais ne parler que de ce rendez-vous-là, sans élargir d'ailleurs, sans se remettre en cause soi-même, parce qu'il est évident que les journalistes du Parisien participent à ce genre de rencontres, l'ont fait et le feront, et que Ève Roger a dû le faire aussi, sans se remettre en question soi-même, c'est super gênant, quoi. C'est super gênant. Encore une fois, sur le fond, je suis d'accord avec ce que vous dites de ce genre de rendez-vous. Hein ? C'est pas parce que ça a toujours été fait qu'il ne faut pas que ça s'arrête, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas du tout Mais ce n'est pas du tout la tournure que prend le débat sur les réseaux sociaux après cette vidéo, quoi. Pourquoi Twitter ? Parce que Twitter est un... Pourquoi j'ai lu des commentaires sur Twitter ? Parce que Twitter est juste une caisse de résonance où les gens s'expriment, citoyens ou élus. Le premier commentaire très 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 critique que j'ai lu sur cette vidéo, c'est celui d'un élu de la République, d'un député de la France Insoumise qui siège à l'Assemblée. Donc c'est juste Twitter, c'est le support. Mais ce qui est intéressant, c'est les réactions des gens, élus, citoyens. Hein, je vais sur Twitter parce que j'ai pas le temps d'aller dans la rue pour faire un micro-trottoir et en plus il fait froid. Ça caille. Voilà, bon, on va passer à autre chose, mais voilà, je voulais vous donner mon sentiment. Mon analyse n'est pas forcément la bonne. Voilà. C'est celle que je vous propose ce matin là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir ce genre d'échange. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler, je suis sûr. Petit sommaire. On y va ? Let's go ? Voilà, qu'est-ce que j'ai ce matin ? Donc, j'ai oublié tous mes journaux Stabilo Bossé à la maison, à France Info. Mais c'est pas grave, je les ai retéléchargés à la maison, donc ça va donner ça aujourd'hui. Voilà de quoi on va parler. Je vous montre d'abord le Monde, donc on part pour un sommaire. Je vous montre le Monde, voilà, le Monde d'hier soir, donc que je lis le soir, mais qui sort en début d'après-midi, pour ceux que ça intéresse. Le Monde, anciennement un journal du soir, qui est devenu un journal de l'après-midi, qui paraît un peu plus tôt. Alors, Le Monde, avec un papier que je trouve passionnant sur les défis d'une Chine vieillissante. Voilà, vous avez un déclin démographique chinois qui est gigantesque, avec un taux de natalité en Chine qui est extrêmement faible. Donc, alors, bon, certains pourraient s'en féliciter, vous savez, les gens qui craignent une surpopulation en Chine ou mondiale, sauf que ça peut poser d'énormes problèmes économiques. Tiens, notamment pour le financement des retraites en Chine dans les prochaines années. Donc on va se pencher là-dessus, le papier est passionnant. Macron et les jeunes, la fracture, voilà. Un papier extrêmement intéressant qui dit pourquoi le chef de l'État n'arrive pas à convaincre les moins de 30 ans, pourquoi il y a un fossé qui va grandissant entre les jeunes et le président Macron. Papier dans Le Monde extrêmement intéressant, assez critique d'ailleurs sur le chef de l'État. Hier, matin, sur France Info et sur France 2, on vous a parlé de ce rapport qui vient d'être rendu par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le sexisme en France. Il y a eu un débat de fou hier là-dessus, avec notamment pas mal de garçons dans le chat qui disent « Mais arrêtez de dire que les Français sont sexistes, je ne suis pas sexiste. » C'est pas toi qui es sexiste. C'est une partie importante des hommes en France. Donc on a eu ce débat qui était assez vivifiant, qui était assez intéressant. Et là, la parole justement est aux membres de ce Haut Conseil à l'égalité qui demande un plan d'urgence contre le sexisme en France parce qu'il trouve qu'il y a urgence en fait en la matière. Donc on aura à nouveau ce débat tout à l'heure. Le Parisien, alors pas de... Voilà, ça c'est, je l'ai lu hier soir, donc il y a du Stabilo partout. Le Parisien, c'était ce matin en version papier à France Info, donc il n'y a pas de Stabilo, mais j'ai retrouvé les articles dont je voulais vous parler. Covid-19, c'est drôle, ce matin en allant à France Info, je me disais mais c'est drôle, Covid-19, on en parle quasiment plus. Hein, quasiment plus. Qui vous a parlé récemment du Covid-19, voilà. Alors, Le Parisien pose la question justement ce matin. Est-ce que c'est devenu une maladie comme les autres ? 3 ans après le premier cas, c'était il y a 3 ans tout juste, de Covid-19 en France, les mesures drastiques pour lutter contre le virus ne sont plus vraiment d'actualité. Voilà. Alors, c'est vrai que Le Parisien nous raconte, par exemple, qu'il y a des pays comme l'Espagne ou Israël, on est déjà à l'étape d'après, où on vit vraiment avec... le Covid-19. Donc on lira ce dossier sur les derniers chiffres. Effectivement, c'est vrai que le Covid touche beaucoup moins de gens et beaucoup moins meurtriers que dans le passé. Donc est-ce qu'il faut relâcher la pression, moins tester par exemple, est-ce qu'il faut moins tester, moins se tester? C'est la question que pose le Parisien. Très bonne remarque de Captain McBurney qui dit ce que fait l'Espagne en matière de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes devrait être la norme partout. Je crois que tu as raison. L'horoscope, parce que je crois hier, je ne l'ai pas lu, un petit plaisir tout à l'heure. La Croix, dossier annuel, dossier passionnant sur les rapports entre les Français et les médias. Je t'aime moi non plus. Quelle est la confiance des Français envers leurs médias ? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt parler de méfiance ? et de défiance. Hop, voilà, croix, quel retour. J'ai éteint ma tablette, donc ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Les Français, ce sont deux infos importantes dans cette enquête annuelle, fortement intéressés à l'actu en 2022, voilà, mais ressentent aussi de la lassitude face au flux médiatique. Il y a de plus en plus de Français et de Françaises qui n'en peuvent plus, en fait, ce flux médiatique, de mauvaises nouvelles. Donc, on lira cette enquête. Chaque année, il y a des petites évolutions. Alors, une information perçue comme mieux traitée, il y a une petite amélioration sur le regard des Français sur leurs médias. D'ailleurs, quels sont les médias qui inspirent le plus de confiance aux Français? Donc, on lira un petit palmarès. Et puis quelle est l'évolution, et puis la question de la lassitude aussi par rapport au côté extrêmement anxiogène rapporté par les médias. On lira cette enquête annuelle. Ah, il y a aussi cette histoire de, je ne sais pas si on pourra tout dire, de fossé générationnel dans le rapport aux réseaux sociaux, avec, bon, ça vous le savez évidemment, de plus en plus de jeunes qui s'informent sur les réseaux sociaux, alors que les un peu plus âgés ont moins ce réflexe aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les articles que j'ai re-téléchargés ce matin pour vous. Je me recale sur Le Monde. Il y a des journaux que j'ai lus ce matin, mais je vous ai rien mis de côté parce que je n'ai pas trouvé des articles qui nous avançaient beaucoup par rapport à ce qu'on a lu ces derniers jours. J'ai sauvé en version papier deux journaux, ou plutôt deux cahiers de journaux que j'avais mis de côté avant de commencer ma matinale. D'abord, il y a un papier que je trouve assez passionnant sur deux papiers dans Les Échos, cahier entreprise et marché. La pression. Je vous allume la petite caméra zénitale là. La pression qui monte sur les pratiques des influenceurs. Vous savez qu'on a déjà lu un papier là-dessus. Ça y est, les pouvoirs publics en France ont décidé de s'occuper des excès commis par certains influenceurs. Hein. Là, on ne parle pas des streamers, là, on parle bien des gens qui vous vendent des produits divers et variés, ou des NFT, ou des bitcoins, ou que sais-je encore, ou des produits, enfin bref. Voilà. Là, ça y est, ça commence un petit peu à être encadré, hein, avec des rapports qui sont commandés, avec des poursuites judiciaires aussi. Papier dans Les Échos, et puis alors un truc que je trouve qui moi me passionne, c'est voilà, le boom de la Chine en tant que constructeur automobile. Bon, avant, si on posait la question, je sais pas, aux clients automobilistes européens, savoir s'ils voulaient acheter une voiture chinoise, je pense qu'il y a quelques années la réponse aurait été assez rapide. Aujourd'hui, la Chine est bien placée pour devenir le numéro 1 mondial des exportations automobiles. La Chine vient de passer devant l'Allemagne, lui piquer la place de numéro 2 pour donc devenir le numéro 2 des exportations automobiles, et pourrait passer très bientôt devant le Japon. Je parle bien d'exportation. Donc la Chine va bientôt devenir le numéro 1 mondial des exportations automobiles. Voilà. Pourquoi ? Bah, c'est la révolution de la voiture électrique. Autant les constructeurs chinois n'ont pas convaincu les automobilistes du monde entier avec les voitures thermiques, voilà. En revanche, avec les véhicules électriques chinois qui arrivent, eh bien, c'est pas du tout le cas. Et par exemple, chez Tesla, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette offensive des marques chinoises, et la baisse assez importante des tarifs des Tesla, dont on a parlé sur France Info avec David Delos il y a quelques jours, de l'ordre de jusqu'à 20% sur certains modèles, en fait, est lié à ça, au fait que vous avez des véhicules chinois de qualité qui arrivent sur notre marché. Donc on va se pencher là-dessus, les chiffres sont assez fous. Et puis on va rester en Asie. Dans Le Monde, je vous ai montré tout à l'heure un papier sur la baisse de la natalité et la démographie qui part un peu en sucette en Chine. Et bien, on a le même problème au Japon. Et là, je vous ai mis de côté un article dans le Figaro Echo, voilà, avec la chute vertigineuse des naissances qui pétrifie le Japon, voilà. Et là, on a une population nippone qui va baisser à vitesse grand V dans les prochaines années. Là aussi, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur l'économie, sur le marché de l'emploi et sur les retraites. Mathilde me dit qu'en Corée du Sud, c'est la même chose. Voilà pour le petit sommaire. On n'a pas l'impression que je vous ai mis 1000 articles comme ça de côté, mais je peux vous dire qu'à lire, ça va prendre un petit peu de temps parce que ça va provoquer sans doute pas mal de débats, ne serait-ce que quand on va parler de sexisme. J'ai vu des garçons tout à l'heure qui étaient un peu en colère, mais arrêtez avec le sexisme. Je ne suis pas sexiste, on n'est pas sexiste. On va en parler. Pas mal, non? Vous en pensez quoi? Comme petit sommaire. Ouais, On va parler du Japon et de l'immigration. Neroux, je vois que tu connais le sujet. L'immigration au Japon, c'est un sujet. Hein, c'est un sujet un peu compliqué. Est-ce que le Japon va s'ouvrir à l'immigration pour compenser la baisse de la natalité? Vrai débat, vrai débat. Alterax, merci beaucoup pour cet abonnement. On lit tout ça. Lolita Boulet, joli pseudo, me dit que ça va être très intéressant tout ça. Je suis carrément d'accord. Ça va encore durer après 13h. Non, je peux pas. Je peux pas. J'ai un déjeuner avec le président. À 13h30, donc à 13h, je vous abandonne. J'abandonne. On y va ? Ouais, le Japon se vide de ses habitants, mais ne veut pas accueillir l'étranger. Pascal, c'est exactement cela. On y va ? Allez, go. Non, pas le vrai président, le président de l'association dont je suis le parrain depuis 7 ans, qui s'appelle Pompière et d'aventure, qui court avec des enfants en situation de handicap. C'était pour faire la blague. Est-ce que tout va rentrer jusqu'à 13h ? Bon, ça dépend de vous. Ça dépend si vous êtes sage ou pas. Allez, Le Monde, la dernière édition du Monde, sachant qu'une nouvelle va sortir dans les prochaines heures, là, sur les défis d'une Chine vieillissante, j'ai trouvé le papier passionnant. Malgré le déclin démographique chinois et les enjeux sous-jacents, eh bien, les autorités semblent dans le déni. Et il y a une démographie qui est en berne en Chine, mais les autorités ont beaucoup de mal à le reconnaître. C'est le premier constat du Monde. Mardi 17 janvier, donc il y a quelques jours, c'est au détour d'une conférence de presse sur la croissance économique que les responsables du Bureau national des statistiques chinois ont révélé les derniers chiffres. En 2022, la Chine a vu sa population diminuer de 850 000 personnes, donc c'est une population qui n'augmente plus, la population chinoise. C'est une population qui, en l'espace d'une année, perd jusqu'à 1 million d'habitants. Vous allez me dire, sur 1 milliard 400 millions d'habitants, perdre 1 million, bon, tout est à la hauteur de la démesure chinoise, bien sûr. Mais donc, c'est un... À quel point ces statistiques sont fiables, d'ailleurs, me dit Ketuki. Ce que je sais, c'est que pour le pouvoir chinois, reconnaître une baisse de la population, c'est un vrai problème. Donc, si les statistiques officielles chinoises constatent, reconnaissent qu'il y a une baisse de la population... C'est sans doute qu'elle est même supérieure aux chiffres, parce que c'est un vrai problème pour le pouvoir chinois, vous allez tout comprendre. Donc, baisse de 850 000 personnes en 2022, la population chinoise passe de 1,413 milliards environ à 1,412 milliards, essentiellement à raison de la faible natalité. La baisse réelle est même sans doute plus élevée, c'est ce que je vous disais à l'instant. Les experts affirment même qu'en fait, ce déclin de la population chinoise, il est en place depuis quelques années. Si le sujet passionne les Chinois, il embarrasse les autorités. À partir d'avril, la Chine va occuper désormais, selon l'ONU, la deuxième place au rang des pays les plus peuplés de la planète, au profit de qui ? Qui va devenir numéro 1 en avril, très officiellement, selon l'ONU ? En termes de la population la plus importante du monde, c'est l'Inde, bien sûr, Poloche, Songjen, exactement. C'est là où, pour le pouvoir chinois, c'est une pilule qui est un peu dure à avaler, parce que le pays le plus important, notamment par son nombre d'habitants, bah, jusqu'à là, c'était la Chine, et ça va devenir l'Inde, là, en avril prochain. Donc c'est un crève-cœur pour le pouvoir chinois, d'autant que beaucoup me parlaient de la politique de l'enfant unique, d'autant que le gouvernement a mis fin en 2015, justement en 2015, donc ça fait 7 ans, à la politique de l'enfant unique qui avait été instaurée en 1979. Donc voyant la population décroître et la natalité fondre, eh bien, le pouvoir chinois a mis fin à cette politique de l'enfant unique. Hein. Vous vous rappelez, il était interdit d'avoir plus d'un enfant par famille. Et aujourd'hui, incite au contraire les Chinois à avoir 3 enfants. 3 enfants. Depuis 2021, voilà, il encourage même les familles à avoir 3 enfants. Or, à la surprise de la plupart des experts, le taux de fécondité, qui était en moyenne de 1,66 durant ces années d'enfant unique, n'a cessé de baisser malgré les incitations du pouvoir chinois. Il continue de baisser, on n'est plus qu'à 1,15 en 2021. Il pourrait baisser à 1,08 en 2022. On attend les derniers chiffres, loin du taux de 2,1, hein, vous savez, nécessaire pour assurer le renouvellement de la population. En France, on est à, je ne sais plus, 1,7, 1,8. Selon l'ONU, toujours, la population chinoise, donc aujourd'hui, qui est à 1,4 milliard, pourrait être à l'horizon quoi ? Quelle année ? À la fin du siècle, de 788 millions seulement, c'est-à-dire divisé par deux. Vous prenez la population chinoise ici, vous la divisez par deux, et vous auriez la population chinoise à la fin du siècle. Voilà. Même si le taux de fécondité remontait un petit peu. Alors, quand vous avez une population qui est diminuée par deux comme ça, en l'espace de moins de 80 ans, voilà, eh bien la question c'est à quel défi économique et sociaux sera confronté ce pays qui, selon la formule consacrée, va peut-être être vieille avant d'être riche. Aux États-Unis, certains n'ont pas attendu pour jouer les Cassandres, hein, et certains experts écrivent de 2020 à 2050, la Chine va perdre 200 millions d'adultes en âge de travailler et d'avoir 200 millions de seniors supplémentaires qui vont arriver à la retraite. Ça vous rappelle pas un débat chez nous, ça ? Les conséquences économiques et fiscales vont être dévastatrices. Des projections actuelles suggèrent que les dépenses médicales et sociales vont tripler, passant de 10 à 30% du PIB vers 2050. Ce sont des universitaires américains qui ont fait ces petits calculs. Il y a actuellement, tiens, ça aussi ça va nous rappeler notre débat en France, vous savez, pour le nombre d'actifs qui financent les retraités, les retraites. Actuellement, vous avez 100 personnes en Chine en âge de travailler pour venir en aide, pour payer la retraite de 20 personnes âgées. 100 actifs, 20 retraités. En 2100, vous aurez 100 personnes en âge de travailler qui vont aider non pas 20 retraités, mais 120 retraités à vivre. Voilà. Dans ce pays où l'espérance de vie a atteint 78 ans, c'est plus qu'aux États-Unis, mais où les femmes continuent de prendre leur retraite à 55 ans et les hommes à 60 ans, un allongement de la vie active semble indispensable. C'est incroyable parce que ça, quelque part, ça éclaire un petit peu notre débat chez nous. Vu la taille de la Chine, les conséquences de son déclin démographique ne sont pas seulement nationales. Voilà. Le pays ne compte aujourd'hui que 800 000 étrangers sur son sol, deux fois moins que la seule Île-de-France. 800 000 étrangers dans toute la Chine, c'est deux fois moins d'étrangers qu'en Île-de-France. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers en Chine. Qu'il se décide un jour à ouvrir ses portes aux infirmières, aux informaticiens étrangers, eh bien c'est tout le marché de l'emploi dans la région asiatique qui serait bouleversé. Les conséquences démographiques pourraient être même mondiales. Savoir si et quand la population mondiale va diminuer est extrêmement difficile, mais ce qui se passe en Chine nous rapproche de ce moment. J'ai vu dans le chat beaucoup de commentaires en mode « mais c'est une très bonne nouvelle ça ». Si la population chinoise diminue, si la population mondiale diminue, c'est une très bonne nouvelle pour la planète. Ce qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs, comme analyse, même si, vous savez que les dernières projections des démographes, c'est on a longtemps cru que la population mondiale allait croître comme ça indéfiniment. Aujourd'hui, on pense qu'elle va se stabiliser à 10 milliards. D'habitants, je crois qu'on est à 8 aujourd'hui, et qu'après, elle va décroître. Voilà. Tout simplement parce que le taux de fécondité, en fait. Salut, il y a Joe qui est là, je crois. Salut, Joe. Salut, espèce de beau gosse. Je te renvoie ton beau gosse. On parle de la démographie en Chine qui est en train de s'écrouler. Et donc, voilà, on va monter à 10 milliards, et après, ça va baisser parce que le taux de fécondité, en fait, des femmes dans le monde entier est en train de baisser. Exemple avec la Chine. Ici. Je lis un petit peu vos commentaires et on enchaîne parce qu'on a plein de choses à lire. Je remercie Madly Maddy pour le 12e mois d'abonnement à l'instant. Il y a beaucoup d'humour dans le chat, j'adore. N'hésitez pas à suivre l'ami Joe, hein. Intitulé de chaîne Joe Coco, c'est mon sidekick de stream, mon partenaire de crime. Nerux, ces chiffres, diminution de moitié de la population chinoise, donc à la fin du siècle, hein, c'est pas tout de suite, sont assez incroyables à considérer, c'est basé sur plusieurs études. Bon, c'est des universitaires, là, américains, qui ont pris le taux actuel de fécondité des Chinoises et qui ont fait une extrapolation, même en supposant que ce taux de fécondité remonte. C'est des maths. Bon, après, évidemment, si jamais le pouvoir chinois arrive à convaincre les Chinois et les Chinoises de faire des enfants, bah, ça pourrait changer le pouvoir ou les citoyens eux-mêmes. Mais pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin. Quoi. Wolfgang me dit, à 10 milliards, est-ce qu'on va avoir marre de faire des enfants ? Non, en fait, tout simplement, c'est que plus les populations non pas s'enrichissent, mais connaissent des conditions de vie qui s'améliorent, ce qui est le cas sur de nombreux continents et dans de nombreux pays, en fait, et moins les gens font des enfants, en fait. Voilà. Ça, c'est un grand classique. Par exemple, vous avez, ça, tous les démographes pourraient vous l'expliquer, notamment à l'INSEE, les populations étrangères qui viennent s'installer en France avec parfois des taux de fécondité plus importants que les Françaises, eh bien, au bout d'un certain temps, le taux de fécondité de ces étrangers en France s'aligne, en fait, sur le pays qui le rejoignent, en fait. Voilà. Ça, c'est un grand classique. Mais ça, vous le savez sûrement. Voilà. Bon, je vous ai mis cette petite graine sur la démographie en Chine, mais à mon avis, quelque chose me dit qu'on y reviendra dans les prochaines années, les prochaines décennies. J'enchaîne plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça s'est caché, ça va se rallumer, paf! Macron et les jeunes, la fracture, c'est un papier dans Le Monde toujours qui fait le constat que ben, ça ne va plus. Ça ne va plus. Le président Macron a perdu le contact avec les jeunes qui sont très nombreux à plus acheter la parole présidentielle. C'est le constat de cet article. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Que ce soit sur les retraites ou le climat, le chef de l'État ne parvient pas à convaincre les moins de 30 ans. Au contraire, il est accusé de favoriser les Français les plus âgés, voilà, les plus aisés, qui est devenu le cœur de son électorat. René Coty, fanboy, je suis content de revoir ton pseudo, merci pour ce 17e mois d'abonnement. À Okayas, merci pour ce 6e mois et merci de ton passage. C'est drôle parce que vous parlez des streamers. Le papier du Monde en parle dans quelques secondes, justement. C'est drôle, hein, c'est la faute au streamer qui insulte le président, me dit Skonk. Le Monde en parle, vous allez voir. En haut de l'iceberg, donc Le Monde prend un iceberg et regarde en haut et en bas. En haut de l'iceberg, il y a les images, comme ces jeunes activistes jetant de la peinture sur Matignon, sur Bercy, sur le ministère de la Transition écologique au début de l'année. Nous, on a regardé ces images ensemble, on a eu des débats là-dessus. Comme ces streamers, pop, ça parle de Twitch dans Le Monde, là. Rappelez-vous le dernier The Event. Comme ces streamers, ces joueurs de jeux très influents, insultant dans des vidéos le président de la République en septembre 2022, lorsque ce dernier les avait félicités pour l'organisation d'un événement lié au climat. C'est le The Event, hein, souvenez-vous, avec des streamers que vous connaissez qui avaient été un peu mis en colère par le président Macron qui les avait félicités et qui lui avait répondu « Attends, on fait un truc sur le climat ?» Déjà, toi, bouge-toi sur le climat. Hein, je vous résume un peu les propos des streamers. Il y avait Ponce, il y avait Antoine Daniel, je crois. Il y avait... Dites-moi encore... qui y avait encore? Rappelez-moi. Il y avait Ultia, non? Il y avait Ultia, je ne sais plus. Ponce, Antoine Daniel. Vous vous souvenez? C'était Angle Droit. Exactement. Voilà. Et donc, un peu en colère par les propos du président, voilà, qui avait dit les termes un petit peu. Donc, ouais, c'est évoqué par Le Monde ici. Comme ces streamers, ces joueurs de jeux très influents, insultants dans des vidéos le président de la République en septembre 2022, lorsque ce dernier les avait félicités pour l'organisation d'un événement lié au climat. Ou, c'est pas terminé, comme ces jeunes défilant contre la réforme des retraites, certains brandissant le panneau « Pas de planète, pas de retraite », des radicaux ultra-politisés balaient les conseillers du pouvoir. Je suis pas sûr que les streamers qu'on vient d'évoquer soient, pour reprendre les mots de ces conseillers du pouvoir, des radicaux ultra politisés. Déjà, je pense que c'est une grosse erreur d'analyse. Si effectivement vous avez des conseillers à l'Élysée qui ont expliqué au président que les streamers qu'on a pu entendre aux events étaient, je cite, des radicaux ultra politisés, là, en termes d'analyse, je pense qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Tu m'étonnes qu'il y a un fossé qu'il y a un fossé grandissant entre le pouvoir et les jeunes. Je dis ça, je dis rien. Donc ça, c'est pour la partie apparente de l'iceberg. Mais sous la ligne de flottaison de l'iceberg, il y a aussi les urnes où la fonte est encore plus sensible. Au premier tour de la présidentielle en 2022, Emmanuel Macron est arrivé derrière Jean-Luc Mélenchon. La mafia géoguessère, j'adore. Derrière Mélenchon, derrière Marine Le Pen chez les 25-34 ans. Mélenchon, Marine Le Pen était devant le président pour les 25-34 ans. Si on revient en 2017, le président Macron était en tête dans cette catégorie de la population. Avant sa première élection à l'Élysée, le chef de l'État se faisait le contempteur des rentes, de l'immobilisme, je ne sais pas si vous vous souvenez, le héros des start-up. Mais depuis, il y a comme un malaise qui s'est installé, écrit Le Monde, entre le président de la République de 45 ans et une large partie de la jeunesse. Je vais vous lire bien sûr, dans un instant, et une large partie de la jeunesse, une simple incompréhension, espèrent certains ministres. D'autres y voient un véritable divorce. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui me parlait d'un véritable abîme plutôt qu'un fossé. Il y a deux gros dossiers qui accentuent cette fracture, souligne Le Monde, c'est la réforme des retraites et la transition climatique. Je vous lis le reste du papier dans un instant, mais je vous lis un petit peu là-dessus. Caroc me fait rire parce que puisqu'il y a des conseillers du président qui estiment que les streamers qu'on a entendus aux events étaient des radicaux, des radicaux ultra politisés. Il y a Caroc qui dit imagine, ils entendent parler d'Usul, ils vont être choqués. J'adore. J'ai bien aimé la mafia de Géoguessère tout à l'heure aussi, quoi. T'es radical, Samuel. Oh là là. Si seulement. Radical de rien. Radical du bide en ce moment. Je fais beaucoup de gras. Mais c'est tout, quoi. Ouais. Si les conseillers parlent comme ça, effectivement, on est mal barré, estime Margotine. Ouais. À quand Macron dans Backseat ? En vrai, je pense qu'il kifferait, Jean, hein, de recevoir le président de la République. Alors continuons l'article du Monde. Donc Le Monde dit que ce qui accroît cette fracture entre le président et les jeunes Français, c'est la réforme des retraites et aussi la transition climatique. Comme souvent, ce dossier des retraites réactive le clivage générationnel. C'est un grand classique. Des économistes se relaient pour expliquer, chiffres à l'appui, que le papy boom écrase la jeunesse. Les retraités actuellement ont un meilleur niveau que les actifs, ce qui pose question quand même. Leur taux de pauvreté est beaucoup plus faible, 19% de taux de pauvreté pour les 18-29 ans en France, 8,9% pour les 65-74 ans. C'est le chiffre de l'INSEE. Les seniors qui détiennent 60% du patrimoine. Cette réforme des retraites se fait dans le dos de la jeunesse, tranche Maxime Zbeï, qui est un économiste, et qui dit aussi « On a vu des étudiants aller chercher des colis alimentaires et pourtant la France reste avec l'image du petit vieux pauvre. » Comme dans les années 60, quand vous dites ça, vous avez l'impression de briser un tabou. Cette prime politique aux seniors s'est accentuée au cours des derniers mois, d'abord avec le creusement abyssal de la dette liée au Covid-19, épidémie qui touchait surtout les plus âgés, ensuite avec la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, accentuant l'effort des salariés. Les jeunes actifs de banlieue payent de plus en plus pour les retraités de la Côte d'Azur, résume, peut-être de façon un peu schématique, mais c'est pas inintéressant, Hakim El-Karaoui, auteur d'un livre intitulé « La lutte, non pas des classes, mais la lutte des âges ». Continuons sur le président Macron. Macron a complètement changé de logiciel. Il n'est plus dans la rupture, il est dans la continuité, il était le chauffeur Uber de la politique, il promettait de casser le système de rente, il est dans le maintien maintenant, dans la protection pour assurer les vieux, dit Hakim El-Karaoui. L'autre motif de séparation, c'est la question climatique, c'est le combat du siècle, selon le chef de l'État. Comme dans la plupart des pays occidentaux, l'exécutif français se retrouve face à un front d'activistes collant leurs mains sur le bitume, bloquant les rocades, aspergeant des œuvres d'art. Ces ministres, dont certains sont questionnés par leurs propres enfants, qui font des centaines de kilomètres en train plutôt qu'en avion, oscillent, des militants hors sol ou une avant-garde reflétant une inquiétude générationnelle. Conclusion de l'article que je trouve assez intéressant de Mathieu Gohard, pour ne pas dire très intéressant. En penchant vers les seniors, le président Macron s'attire les critiques en électoralisme, puisque les plus de 50 ans représentent maintenant plus de la moitié du corps électoral, une donnée renforcée par l'abstention beaucoup plus faible chez les retraités, 12% d'abstention seulement. C'est que dalle, putain, je suis surpris même. Putain, mais pardon, mais les seniors, ils votent en fait à donf, quoi. 12% seulement d'abstention chez les 60-61, mais 12%, mais c'est rien. Au premier tour de la présidentielle, 46% d'abstention chez les 25-34 ans. Bon, moi, c'est mon discours de vieux, toujours, je dis, mais putain, mais allez voter, quoi. Hein, même si c'est pas enthousiasmant, allez voter pour le moins mauvais. C'est pas, vous pouvez pas laisser une partie de la population décider à votre place, quoi. Hein, je sais pas s'il y a des 25-34 ans dans le chat, là. Mais c'est pas possible, enfin. En fait, vous laissez les 60-69 ans décider pour vous, quoi. Donc, c'est pas possible. Il est devenu 3 fois plus rentable de parler à un électeur de plus de 50 ans. Bah oui, s'il vote. À un moment, là, vous avez un président Macron qui, a priori, dont le discours politique se tourne plus vers les personnes âgées, les seniors, ok ? Mais bon, le politique, c'est aussi quelqu'un qui veut se faire élire, qui veut se faire réélire. Donc à un moment, s'il constate, je vais dire les termes super classiquement, enfin super simplement, si le politique, quel qu'il soit d'ailleurs, constate que les vieux votent et que les jeunes ne votent pas, vers qui va tourner son discours ? S'il veut être élu, il va parler aux vieux, puisque les jeunes ne votent pas. Donc à un moment, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Je sais, il y a Baron Noir qui me dit voter alors que ce sont tous les mêmes. Non, c'est pas vrai. Besancenot, c'est pas Macron. Mélenchon, c'est pas Macron. Arlette Laguiller, elle est plus là, mais elle est plus dans le game. C'est pas Macron, c'est pas vrai. Vous prenez la dernière présidentielle, je suis désolé, mais les projets politiques sociétaux d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Macron, de Mélenchon, du candidat écologiste, de Fabien Roussel, le candidat communiste, mais ça n'a juste rien à voir, c'est pas les mêmes, mais pas du tout, pas du tout. Allez voir la politique menée par François Hollande, bilan, pas bon bilan, je m'en fous, c'est pas du tout la politique menée par Sarkozy, ça n'a rien à voir, rien à voir. Comparer la politique menée par Sarkozy et Macron, par Sarkozy et Hollande, par Macron et Sarkozy, enfin ainsi de suite, quoi. Ça n'a rien à voir, rien à voir, rien à voir. Le discours, c'est tous les mêmes. À un moment, tu te dis, mais t'as lu les promesses ? T'as regardé les politiques menées sur les migrations ? Sur les impôts ? Là, vous avez des majorités qui montent les impôts, d'autres qui les diminuent. C'est pas du tout la même chose. Donc à un moment, le tous les mêmes, c'est faux. C'est confortable quand on veut pas aller voter, mais c'est faux en fait. Alors, dites-moi, je ne me reconnais pas dans les programmes des différents politiques malgré leurs différences, hein, ultralibéraux, communistes, voilà, pro-impôts, au contraire pour une diminution. Dites-moi ça, ok, dites-moi, moi je rêve encore d'un autre programme, bon, dites-moi lequel, mais me dites pas que c'est pareil, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Par contre, en votant pas, vous laissez la main aux ceux qu'on vient de désigner ici, quoi. Voilà, en l'occurrence, les seigneurs. L'anarchisme, ouais, ok, très bien. Dites que vous êtes anarchiste, quelqu'un qui me dit, moi, c'est sans moi, je suis anarchiste. Anarchiste, ok. Bon, mais je suis pas sûr qu'il y ait une proportion importante d'anarchistes dans le chat, quoi. Donc là, le tous pareil, c'est éviter le débat, en fait. C'est pas vrai. La reconnaissance du vote blanc, il faut reconnaître le vote blanc, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Ah, maintenant, j'ai plein d'anarchistes dans le chat, c'est cool. Bon, vous connaissez ma conception de la politique, elle n'est pas enthousiasmante, je vous la rappelle. Ça n'a vraiment rien d'enthousiasmant d'aller voter. Voilà. Les programmes, en vrai, c'est assez intéressant. On est sur les idées, les valeurs. Parfois, ça fait un peu rêver quand tu voyais les professions de foi des candidats. Putain, la vache, ouais, ce serait super quand même si le pays ressemblait à ça. Après, la personne est élue, elle ne fait pas toujours ce qu'elle a dit. Parfois, au niveau du style de la personne, c'est pas non plus super séduisant. Voilà. Et souvent, à quelques mois ou quelques années après son vote, on le regrette un peu. Rien d'enthousiasmant là-dedans. Voilà. Mais je pense qu'il faut choisir, en fait. Je pense quand même qu'il faut choisir, parce que sinon, vous laissez les autres choisir à votre place. Ça, je déteste cette idée. J'ai pas du tout envie que mon voisin choisisse à ma place. Voilà. Donc, vous allez choisir le... Non, pas le meilleur, ça n'existe pas. Vous allez choisir le moins mauvais. Voilà. Donc, avec peu d'enthousiasme, voilà. Mais déjà, en choisissant le moins mauvais, je trouve que vous faites du bien à votre pays. Ça n'est que mon regard là-dessus. Peut-être que je me trompe totalement. Peut-être qu'effectivement, il faut absolument pas aller voter et pas participer à ce débat. Moi, ma conviction, c'est que il faut pas laisser les autres décider à votre place. Les programmes de tous les candidats dont on parle n'ont rien à voir entre eux. Le projet de société de Marine Le Pen n'est pas le projet de société de Fabien Roussel. Voilà. Mélenchon, à un moment qui a rêvé d'être au deuxième tour, eh ben c'est pas le même projet non plus, ça n'a rien à voir. La politique qui aurait été menée n'aurait rien eu à voir, hein, si Mélenchon avait été élu, par exemple. Donc, je ne vais jamais choisir le meilleur, je ne vais jamais voter pour le meilleur, je vais toujours choisir pour le moins mauvais, la moins mauvaise, et je suis quand même déçu. Après, toujours. Et j'y retourne. Depuis 1989, quand j'ai voté pour la première fois. Voilà. C'est ma vision de la politique, elle n'est pas super enthousiasmante, je le sais, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres, en fait. Bon, voilà. On continue. C'est affreux. En deux ans, on a eu 1 milliard de fois ce débat-là. Je radote, c'est chiant. Chemical what the fuck, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Oui. Bah oui, bah c'est ça. C'est pas super, hein. C'est comme ça. Ne croyez pas à l'homme ou à la femme providentielle, hein. Si un jour vous allez voter en vous, pour quelqu'un en disant ouais putain c'est lui, ah putain les idées, mais c'est trop ça, c'est trop, je me retrouve tellement dans son projet, oh ça va être génial, la France va être tellement belle dans quelques mois, dans quelques années, je vais voter pour lui, mais putain, mais jamais, vous, jamais ne partez jamais dans un bureau de vote comme ça, vous allez être tellement déçu. Il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de femme providentielle, c'est impossible, il y a trop de, on est dans un pays, il y a trop de forces qui vont dans plein de sens opposés. Un pays, on est combien en France? Je ne sais jamais. 60 millions d'habitants. C'est 60 millions de personnes qui tirent dans tous les sens possibles, imaginables. On est tous différents. On veut pas les mêmes choses. On est d'accord sur rien. Combien? 70 millions d'habitants. On est d'accord sur rien. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Ça peut se passer pas trop trop mal, mais ça peut pas se passer bien. La politique, c'est pour faire tenir tout ce truc-là. Qui est impossible en fait. Voilà. Donc ça peut pas, le résultat ne peut pas être topissime. Il peut être acceptable dans le meilleur des cas. Je donne vachement envie de vous intéresser à la politique. Loloun 2, merci pour le 13e mois d'abonnement. Ça veut dire que vous trouvez que je radote pas trop. Alors que c'est faux, je radote énormément. Sagénor, merci pour le 16e mois. Et on continue. Je voudrais remercier les modos, parce que là je pars sur le sexisme en France, ça va partir encore dans tous les sens. Donc je vous remercie par avance, vous êtes formidables. Robo06, Captain McBernick, Gandalf, Listari, Mage, Milamber, MMG7F, Petit Dragon Vert de Rage. Je salue Eden Blaster, je te vois, tu es là, tu es VIP, donc je te vois, merci d'être là. Et à tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci les modos, parce que vous êtes aux premières loges pour me voir radoter sur les mêmes sujets tout le temps, mais merci, 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 merci. Allez, on parle de sexisme, donc bon courage aux modos. Dans le chat, allez, faites un effort. Pensez à mes modos. Et surtout les garçons. Les garçons. Quand je vais vous rappeler les résultats de cette enquête du Haut Conseil pour l'égalité qui dit que la France est un pays qui est encore sexiste, ne dites pas, je ne veux pas voir de commentaires. Hein. Mais moi, je suis pas sexiste. Mais arrêtez. C'est quoi cette voix débile que je prends? Mais moi je ne suis pas sexiste. Mais arrêtez de dire que je suis sexiste. Pourquoi vous dites que les hommes sont sexistes? Pourquoi vous dites que les Français sont sexistes? Je ne suis pas sexiste. Je ne parle pas de toi. Arrête de penser que tu es le centre du monde. Je ne te parle pas à toi. Je dis qu'il y a encore trop de Français, d'hommes français qui sont sexistes. Enfin, c'est pour moi qu'il dit, c'est au Conseil à l'égalité. Ça n'est pas toi. Et puis même si tu crois que tu n'es pas sexiste, eh bien dans ton comportement, si tu cherches bien, t'es peut-être irréprochable, ok, voilà. Mais tu connais peut-être un cousin, un père, un frère, un copain qui a des comportements au quotidien, au boulot, dans la rue, dans la salle de sport, que sais-je, voilà, un peu limite qui pourrait être améliorable, voilà. Sachant que ces petits trucs du quotidien là, hein, qui ont l'air de rien, hein, eh bien c'est aussi ce qui mène à plus grave après, les féminicides, les agressions, etc. Voilà, voilà, voilà. Donc ne le prends pas pour toi, chouchou. Si t'es parfait, t'es parfait, eh ben tant mieux pour toi. Et puis va prêcher la bonne parole. Donc arrête de m'écrire dans le chat. Mais arrêtez de dire que les Français sont sexistes. Je ne suis pas sexiste. Et pourtant, je suis un homme. J'en ai rien à carrer. Si t'es parfait, t'es parfait. Mais sûrement autour de toi, tu vas voir que c'est pas le cas, quoi. Ok? Donc le prochain qui m'écrit dans le chat, arrêtez de dire que les hommes sont sexistes. Je m'en carre le cul. Ok. On y va? J'étais bien sur ce petit passage là, c'est pas mal. Tiens, je commence à bien la mettre au point, ma petite chronique là-dessus. Donc, allez, nous demandons un vaste plan d'urgence contre le sexisme. Qui sont, c'est qui le nous? C'est les membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidé par Sylvie Pierre Brossolette, qui est une ancienne journaliste que je connais bien d'ailleurs, excellente journaliste, comme quoi le journalisme mène à tout, qui alerte sur la prégnance des discriminations sexuelles au sein de notre société. Lisons. Cet appel donc, qui est signé par tous ses membres du HCE. Chez Molière, M. Jourdain disait de la prose, vous savez, sans le savoir. Eh bien, en France, aujourd'hui, écrivent ces membres du HCE, nos compatriotes pratiquent le sexisme, sans s'en rendre compte. Alors que les esprits semblent de plus en plus pourtant acquis dans notre pays à la lutte antisexiste, c'est un paradoxe, hein, inquiétant mis en lumière par le Haut Conseil à l'égalité à l'occasion de la publication de son rapport annuel sur l'état du sexisme en France. On exagère, parce que dans le chat, il y a toujours de rare, vous exagérez, le pas sexiste. Les chiffres fournis par notre baromètre corroborent ce diagnostic. Ils sont implacables. 80% des femmes, on est en France, estiment avoir été moins bien traitées que les hommes en raison de leur sexe. Près de la moitié des femmes souffrent du déséquilibre dans les tâches ménagères. Elles en souffrent la moitié. Un tiers des femmes cadres affirment vivre un écart de salaire avec leur équivalent masculin. 37% des Français interrogés ont déjà vécu une situation de non-consentement dans leur rapport sexuel. Une situation qui, dans la pratique, ne semble guère choquer beaucoup d'hommes. J'ai pas dit tous les hommes, beaucoup d'hommes. Notamment les jeunes adultes, chez qui on observe l'ancrage le plus important des clichés masculinistes. Parmi les 25-34 ans, près d'un quart des 25-34 ans en France estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Alors si on est optimiste, on va dire qu'il y a 75% qui disent « bah non, pas la violence, pas la violence, pas la violence ». Mais vous avez un quart des 25-34 ans, a priori, qui dit ah, « parfois pour se faire respecter, il faut être un peu… » Okay. Un peu moins d'un tiers des hommes pensent impossible l'amitié entre un homme et une femme. Un peu moins d'un tiers des hommes en France pensent impossible l'amitié entre un homme et une femme. 59% jugent acceptable d'aborder une femme dans la rue pour lui demander d'aller boire un verre. 59% des hommes trouvent ça acceptable. Si vous demandez aux femmes, elles trouvent ça moins cool en fait. Une moitié seulement considère que l'image des femmes véhiculée dans les contenus pornographiques est problématique. C'est 50-50. Vous avez la moitié des hommes qui pensent que l'image véhiculée par les films porno sur les femmes, c'est no problemo. Et l'autre moitié qui dit « Ah quand même, c'est peut-être pas le top ». Tous âges confondus, 40% des hommes trouvent normal que les femmes arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. 16% des hommes en France pensent encore qu'une femme agressée sexuellement en est un peu responsable. 16% des hommes en France estiment qu'une femme agressée sexuellement en est un peu responsable. Je continue, la permanence du sexisme dit ordinaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les trucs, hein, les chiffres. Dans la rue, les petites remarques au boulot, toutes les petites moqueries. La permanence du sexisme dit ordinaire fait le lit de ces manifestations les plus violentes. Féminicide, violence conjugale. Ça, c'est ce que disent les membres du HCE. Pour que cessent ces manifestations de toute nature, filles et garçons doivent, parce que là, on est aussi sur le terrain des solutions, des propositions, filles et garçons doivent être à égalité de chances et de moyens. Il faut apprendre aux seconds, les garçons, à respecter les premières tout au long de la vie. Et ça demande des remises en question, hein, y compris pour moi. Moi, j'ai mon âge, je suis d'une génération qui est la mienne. Dans mes comportements passés ou même actuels, quand je fais bien attention, dans mon humour un peu un peu pourri, parfois un peu de beauf, en tout cas l'humour de ma génération, dans mes comportements parfois, quand je fais bien attention, je fais hey, c'est peut-être moyen de s'améliorer un petit peu là. Voilà. La société évolue, voilà. On a pris conscience dans nos sociétés, dans un pays comme la France, qu'effectivement on avait un problème dans la façon dont les hommes, une partie des hommes, traitaient l'autre moitié de l'humanité qui est les femmes. Donc quand on s'est comporté dans le passé de façon pas nominale, parfois parce qu'on est aussi le fruit d'une éducation, d'une société qui n'était pas portée sur ces débats comme nous le sommes aujourd'hui, on essaie d'évoluer avec plus ou moins de succès, mais on essaie d'évoluer. Quoi. Voilà. Donc même moi, il faut que je progresse forcément là-dessus. Allez, je vous lis un petit peu. Mais non, Jérémy, je ne crois pas. Jérémy me dit, on a peur d'être hétéro à 7h en France. Je suis hétéro, je m'en porte très très bien, j'ai pas peur d'être hétéro. Alors, vous en pensez quoi ? J'ai pas encore vu de « Ah, mais arrêtez de dire que les hommes sont sexistes, je suis pas sexiste. » J'en ai pas vu encore. Donc, peut-être mon avertissement de tout à l'heure était intéressant. C'est le journal La Croix. Non, pourquoi ton commentaire a été supprimé ? Mister Lama. Ça me choque pas, moi. Mais c'est bien de devoir s'arrêter pour s'occuper d'un enfant, c'est devenu sexiste, ça. Non, non, ça pose pas problème. Le problème, c'est quand une majorité des hommes... Non, pas une majorité, précisément. 40% des hommes estiment que c'est plus à la femme qu'à l'homme de s'arrêter. C'est quand, dans ce sens-là que ça peut poser question. Hein, voilà. Mais il n'y avait pas à supprimer ce message. Bah, c'est exprimé correctement, quoi. Alors, vous avez le droit de vous poser des questions aussi. Hein. Merci cadeau anonyme pour ce gentil abonnement offert à Cyrielle. Merci Bibiane, comment ça va? Merci pour le quatrième mois d'abonnement. Merci Lolundo, je te remercie tout à l'heure, je crois. Ouais, les chiffres tout à l'heure sont un peu flippants, je le reconnais. Merci Adrien. Très différent l'amitié homme-homme et l'amitié homme-femme. Faut pas se voiler la face, me dit HB. Bon, alors moi j'ai jamais vu la différence, mais je dois être un peu con. Ah, pour le coup, ça a toujours été pour moi une évidence. Mais bon, je vois pas la différence, quoi. Je redescends sur les commentaires, beaucoup de réactions, c'est bien d'ailleurs, c'est un sujet super important. C'est moi ou mon PC portable en train de rendre large? Là, j'ai du mal à... Ah, c'est bon. Ouais, c'est les chiffres en France, ça, effectivement. C'est... Il y a Mirk qui a beaucoup d'humour qui dit « C'est sexiste de dire que les hommes sont sexistes ». Quel âge ont les sondés de l'article? C'est tout âge confondu. Ok. Ah, je lis encore un commentaire. Merci Yakajo, c'est faux, mais c'est gentil. Ok. Eh ben, c'est plus apaisé qu'hier, quand même. Ok. Allez, un dernier message. Alors, question bête de Pasqueta. Est-ce qu'une femme qui pense comme un homme sexiste est sexiste? Est-ce qu'une femme qui pense comme un homme sexiste est sexiste? Si une femme pense, se comporte de manière aussi débile que certains hommes avec les femmes, oui, bien sûr. Après, dans ma courte vie, parce que je suis encore très très jeune, j'ai quand même vu beaucoup plus de comportements sexistes venant des hommes. Je peux m'être interrogé parfois sur des comportements très isolés, individuels de femmes qui pouvaient laisser poser la question de savoir si ce n'était pas une démonstration de sexisme. De façon, mais voilà, de façon pas très très évidente, voilà. Bon, pourquoi, interrogation, nombre de fois où dans mon quotidien je vois des comportements, tous les jours, hein, on va dire, de comportements sexistes conscients ou inconscients d'hommes, voilà, je pense qu'on va pas mettre ça sur le même rapport, quoi. Bon, on enchaîne, j'ai encore plein de choses à vous lire. Bon, mais c'était bien d'en parler avec vous. Oh, c'est mignon ça. Attends. Attends. Oh, attends. Ah! On finit sur une note positive sur ce sujet, c'est le commentaire de Oanir. Bonjour Samuel, j'ai appris que j'allais être papa, je suis très angoissé à cette idée. Que me conseillez-vous? Mais sois pas angoissé. Surtout s'il y a de l'amour entre toi et ta compagne, ta fiancée, ta femme. S'il y a de l'amour entre vous deux, il n'y a aucune angoisse à avoir. C'est juste le contexte dans lequel cet enfant va naître, quelles que soient vos situations matérielles à tous les deux. En fait est très secondaire s'il y a de l'amour entre vous deux. D'abord vous allez vivre ce moment de façon extrêmement intense et l'enfant va être accueilli parfaitement en fait, ou ton compagnon bien sûr quoi, bien sûr. Donc aucune inquiétude, aucun stress à avoir. Tu vas vivre juste, à mon sens, c'est très subjectif, la plus belle expérience qu'on puisse vivre. Voilà, c'est très subjectif parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et je le comprends tout à fait. Donc tu vois là. Voilà. Alors évidemment, comme le dit Angry Baguette, tu vas juste plus dormir. Ça c'est vrai. Tu vas perdre ton sommeil. Mais on peut pas gagner sur tous les plans. Donc tu gagnes un enfant, tu gagnes une aventure d'amour juste dinguerie quoi. En échange, bon bah la nature est ainsi faite que parfois en échange il faut donner quelque chose. Tu donnes ton sommeil. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Et puis tu ne seras pas parfait. Voilà. Tu vas tendre vers, tu vas essayer de devenir le papa ou la maman idéal qui n'existe pas. Tu vas faire des efforts, tu vas lire, tu vas te renseigner, tu vas demander des conseils à d'autres parents, tu vas faire au mieux, tu vas bien écouter les conseils du pédiatre, etc. Et puis tu vas faire bien la plupart du temps, puis parfois un peu moins bien, c'est pas grave. Voilà. Tu vas essayer de faire au mieux quoi. Du moment qu'il y a l'amour, qu'il y a l'attention, qui a la patience, puis parfois ils sont énervants aussi. Ça, c'est des séquences, c'est des périodes, ils peuvent être adorables très longtemps, puis à un moment tu sais pas pourquoi, ils n'arrêtent pas de te défier, de plus t'écouter, de faire exactement l'opposé de ce que tu leur demandes. Tous les enfants font ça, c'est des petites séquences. Voilà. Donc il faut être patient. Voilà. Quand il y en a un des deux qui est moins patient à un moment, faut qu'il passe la main, comme dans un combat de catch, en fait, tu passes la main à l'autre, tu vas prendre 5 minutes de... pour respirer, voilà, c'est putain d'aventure, hein. Mais la meilleure, voilà. C'est épuisant, mais c'est top, voilà. Et puis Foudi, et puis dans 15 ans, quoi que tu fasses, 15 ans ou 18 ou 20, le bébé te le reprochera, c'est pas faux, peut-être, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Merci Owen, je vous dois combien docteur, de rien. En revanche, comme il y a Agamir qui dit, est-ce que comme dans un combat de match de catch, on a le droit aux chaises? Non. Voilà. Il y a Tiwap qui écrit, ma copine fait du babysitting en job étudiant, elle veut plus d'enfants depuis. Dis-lui que ce qu'on ne supporte pas des enfants des autres, on le supporte des siens. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu animal. Voilà. Et voilà, c'est des petites choses qui ne peuvent pas vivre sans toi. À partir de l'adolescence, ils se débrouillent très bien sans toi, mais jusqu'à un certain moment, ces petites choses ne peuvent vivre que. Merci le Zouave, c'est cool, c'est Bordeaux, c'était cool. Ils ont besoin de toi, donc à un moment, si tu es un minimum responsable, tu le sens, ça, et voilà, tu fais ce qu'il faut pour que tout se passe bien pour ce petit bonhomme. Est-ce que tu es prêt à faire pour ton enfant, c'est plus compliqué pour celui des autres, quand même, quoi. Voilà. Allez, pardon. Alors, puisqu'on parle de santé publique en quelque sorte, on va parler du Covid-19. Alors, vrai de vrai, je ne vous mens pas. Vous remarquez que ça fait 2 heures qu'on est en stream et je ne vais pas chercher de café parce que on a été très long sur l'histoire de la séquence sur France 5, là, sur le déjeuner secret avec le président Macron. Et donc, pas de pause café, puisque je ne peux pas aller au-delà de 13 heures pour ce stream, donc je prends sur moi. Ce matin, vrai de vrai de vrai, au milieu de la nuit, il y a Merguez qui dit, mais pourquoi tu dis petit bonhomme, pourquoi pas petite bonne femme? Samuel, serait-il sexiste, choqué, déçu? Parce que je fais que des petits garçons, moi. Vous savez que c'est l'homme qui choisit le sexe, enfin qui choisit, c'est un grand mot, mais c'est au niveau des chromosomes, c'est au niveau des spermatozoïdes du papa que ça choisit en gros avec le XY là, le sexe de l'enfant, voilà. Donc les papas qui font que des filles ou que des garçons qui s'en plaignent, bah, plaignez-vous à vous surtout et pas à votre à votre épouse, voilà. Moi, je fais que les garçons, c'est pour ça que je dis petit bonhomme. Je rêve d'avoir une fille, en fait. Je rêvais d'avoir 3 filles, tu vois. Donc, je suis bien parti. Alors, rien ne dit que je ne vais pas avoir 2 garçons et 3 filles. Mais voilà, donc je fais que des petits garçons. Et c'est de ma faute. Donc, peut-être qu'un jour, on va en faire un troisième, c'est pas sûr. Et peut-être qu'on aura encore un garçon, peut-être une fille, on verra. C'est pour ça que je dis petit bonhomme. Donc, ce matin, en allant au boulot, je me dis, mais on parle plus du Covid. On parle plus du Covid. Et je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Et une du Parisien ce matin, est-ce que c'est pas devenu une maladie comme les autres, finalement? 3 ans après le premier cas, vous vous rendez compte, c'est il y a 3 ans. Après le premier cas de Covid-19 en France, les mesures drastiques pour lutter contre le virus ne sont plus vraiment d'actualité. Ah, j'avais mis plein de jaunes sur ma version papier ce matin à France Info et puis j'ai oublié tous les journaux, donc je les ai téléchargés en me rappelant à peu près ce que je voulais vous dire. Covid-19, est-ce qu'il faut relâcher la pression? C'est la question que pose le Parisien ce matin. Merci Nubi One pour le 17e mois d'abonnement. 3 ans jour pour jour après le premier cas détecté en France, le ministère de la Santé réfléchit à la façon, donc une réflexion en ce moment au niveau des pouvoirs publics, d'adapter au mieux la stratégie tout en préservant le besoin de surveillance de l'épidémie. 3 ans, mais on a un ressenti de 20 ans, dit Caradoc, c'est pas complètement faux. Alors, je vais directement là où je voulais lire l'article. Voilà. Question par exemple. La question c'est ça. Est-ce qu'il faudrait arrêter d'en faire autant sur le Covid en France? Faut-il arrêter d'en faire autant sur le Covid? Devrait-on par exemple de plus demander à tous les cas contacts de se faire tester et de ne plus imposer aux cas positifs de rester à l'isolement pendant au moins 5 jours? Ceci était préconisé l'été dernier par le Haut Conseil de la Santé publique si les situations épidémiques s'avéraient favorables. Et c'est le cas actuellement puisque la 9e vague poursuit sa rapide décrue. On est passé sous les 5000 cas positifs par jour. C'est du jamais vu depuis octobre 2021. Vous avez plusieurs pays comme l'Espagne, merci beaucoup Smugger, comme Israël aussi, qui ont adapté leur stratégie ces derniers mois. Pourquoi? Parce que vous avez une grande majorité de la population qui est immunisée. Vous avez aussi le variant Omicron qui a réduit le risque de forme grave. Donc je disais, l'Espagne l'a déjà fait depuis plusieurs mois, et puis Israël s'apprête à sauter le pas le 31 janvier avec des cas positifs qui n'auront plus à s'isoler, par exemple, en Israël. En France aussi, des scientifiques ne sont pas opposés à cette idée de tester moins, mais de tester mieux. Concrètement, par exemple, le dépistage Covid serait plus accessible gratuitement en pharmacie, serait réservé en priorité aux personnes à risque et à celles présentant des symptômes. On testerait moins. Les Français semblent déjà avoir changé leur comportement, puisque seuls 70 000 d'entre eux réalisent un test Covid chaque jour. Hein, c'est un chiffre qui est au plus bas depuis, un nombre plutôt depuis l'été 2020, depuis deux ans et demi même. Vous avez un professeur, un médecin qui dit même qu'il est probable qu'une partie des cas positifs ne s'isolent plus en France. Alors, du côté des pouvoirs publics, est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir des décisions? Le ministère de la Santé, contacté par le Parisien, indique avoir lancé des réflexions pour adapter au mieux la stratégie de lutte contre le Covid-19 tout en préservant le besoin de surveillance de l'épidémie, compte tenu notamment de l'évolution actuelle de l'épidémie et des choix effectués par nos voisins européens. Alors, est-ce qu'il faut alléger notre dispositif? Est-ce qu'il faut moins tester? Alors, le problème, c'est qu'il y a des scientifiques qui disent « attention, l'émergence d'un nouveau variant plus transmissible et ou dangereux est toujours possible, d'où la nécessité de continuer à détecter et pour ça il faut tester suffisamment. Donc petit attention porté par certains scientifiques. Voilà. Donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Votre sentiment, votre vécu sur le Covid? J'ai pas l'impression qu'on fasse quoi que ce soit en ce moment contre le Covid, me dit Space Conquer. Alors déjà, on a fait beaucoup. Il y a eu les vaccinations. La vraie question, combien de morts par jour? Est-ce qu'ils en parlent dans l'article? Non, mais on va trouver. Combien de morts aujourd'hui par jour? Combien? Aujourd'hui, en janvier 2023, mort Covid. Bonne question. Je voyais quelqu'un qui disait 1000 tout à l'heure. C'est combien? Là, j'ai des indicateurs mis en avant par un quotidien régional qui s'appelle Centre Presse. Voyons si on a ce chiffre-là. On a, en termes de cas positifs, on a 3400 à peu près nouveaux cas positifs chaque jour. Nous, on cherche le nombre de morts. Alors ça c'est quoi là? Pour la deuxième semaine de janvier, on a 380. Oh, donc c'est pas 1000 morts par jour. A priori, deuxième semaine de janvier, 382 décès. Mille morts par jour, c'était au début de la pandémie, me dit King Julian. 80, 7 fois 6, 42, oui. Il y a le SNK Lucky qui parle d'une moyenne de 80 jours. 80 morts par jour en France. Agamir, 69 jours. 69 morts par jour. Ouais, d'après les chiffres que je vois, c'est à peu près ça. On va continuer à vérifier, parce que je vais pas te dire n'importe quoi. Ben voilà, l'agence du Midi Libre, il y a un mois, donc peut-être que ça a baissé, qui parle de 135 à 150 morts par jour. Voilà, et peut-être que ça aurait baissé effectivement à 80, 70, 80 par jour. Voilà où on en est aujourd'hui, pour répondre à ta question. Voilà. Bien sûr, vous êtes plusieurs à me dire qu'il n'y a pas que le Covid, il y a la grippe, il y a la bronchiolite, il y a la gastro, mais là, on parle du Covid. Le nombre de cas positifs a sûrement baissé aussi du fait effectivement qu'on se teste moins, vous avez raison. Anarchiste me dit avec 5 fruits et légumes par jour, tu t'en sors, c'est drôle parce qu'on en parlait avec David Delos ce matin. Pas de ça, mais du fait que les maraîchers, les producteurs de fruits et légumes en France étaient inquiets. Vous savez pourquoi ils sont inquiets? Parce qu'en fait... malgré la campagne 5 fruits et légumes, etc., malgré le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent moins de viande, qui mangent plus, qui sont plus végétariens, voire véganes en France, eh bien, en fait, les jeunes Français, on va dire les 25-35 ans, consomment moins de fruits et légumes que leurs aînés. Moins de fruits et légumes que leurs aînés. Alors, à mon avis, c'est pas forcément parce qu'ils aiment moins les fruits et légumes. C'est pas forcément parce qu'ils sont plus junk food que les aînés, peut-être pas. Je pense que peut-être parce que c'est trop cher. Voilà. Cyril me dit ça aussi. Voilà. Comme le dit Clamakin dans le chat, de façon assez élégante, les fruits, ça coupe une couille aussi. Voilà, c'est cher, exactement. Moi, je pense que c'est plutôt l'explication. Et du coup, ben, les maraîchers s'inquiètent. Oui, ben, du coup, on va perdre en indépendance parce que de plus en plus, comme on produit moins, parce que le marché intérieur est pas assez important, on importe de plus en plus. Je crois que c'est un peu cher, quoi. Bon, après, moi, c'est parce que j'aime manger... je suis très junk food. Vous me parlez beaucoup du prix, quand même, hein, dans le chat. Ouais, c'est cher, ouais, c'est cher. Voilà. Tiwa, personnellement, le 5 fruits et légumes par jour, c'est particulièrement... C'est quoi? C'est compliqué, particulièrement niveau thune en tant qu'étudiant. Exactement, quoi. Rodi, qui vit au milieu du jardin d'Éden, me dit « Je les cueille, moi !» La chance, quoi. La chance. Il y a Eden Blaster, un des fidèles soutiens de cette chaîne, qui dit « McDonald's, mon seul amour. » Bon, moi, c'est une fois, j'avoue, moi, j'ai honte. Hein. C'est une fois par semaine, je mange des hamburgers. D'ailleurs, j'ai mon petit bedon qui s'installe là. Yaka Faucon, ça, c'est un joli pseudo. Merci pour ce 17e mois d'abonnement. Tiwap, je ne sais plus si je t'ai remercié. Je le refais. Et horoscope, vous ne l'avez pas vu venir, je vous ai bien endormi avec mes histoires là. La première, je raconte pour ceux qui sont... Tiens, c'est Scorpion qui a gagné ça aujourd'hui. Pour ceux qui sont là pour la première fois, sachez qu'on a un jeu débile ici. Quand on arrive sur la page horoscope du Parisien, qui est un journal que j'aime bien, eh bien, la première à me donner son signe astrologique correctement orthographié, parce que je suis maniaque sur l'orthographe, sinon c'est trop facile. Eh bien, je lui lis son signe astrologique. On n'y croit pas, hein, bien sûr. On n'y croit pas. C'est pas très très scientifique, mais ça nous fait marrer. C'est Scorpion qui a gagné. Voilà. J'ai mon chat qui est difficile à lire là parce que c'est très haché, c'est très heurté. J'espère que mon petit PC portable avec lequel je stream depuis 2 ans n'est pas en train de saturer. Je serais tellement triste. Tiens, je vais le fermer le chat. Tiens, et je vais le réouvrir. Tchac. Évidemment, ça m'a rien arrangé, mais j'aime bien tester des trucs. Alors c'est tout mon PC qui est lent en plus. Oh zut alors, ça coûte la peau du cul ces trucs, je sais pas moi, j'étais un PC bordel. Excusez-moi, je parle tout seul. Hop là, donc c'est Scorpion, c'est parti. Scorpion. Je vais éviter de médire sur les Scorpions. Une histoire très douloureuse avec... Enfin bon. Cœur. Tiens, bah justement. Scorpion, vous serez sous le charme des différences et vous serez prêt à découvrir d'autres façons de penser. Comment ça ? Cœur, vous serez sous le charme des différences. Alors, je pense aux gens qui sont en couple avec un scorpion ou une scorpionne. Scorpionne. Hein ? Et qui lisent ça. Et vous apprenez que votre compagnon, votre compagne, va être sous le charme des différences. Ça veut dire quoi, ça ? Vous êtes... Hein ? Il y a des gens qui sont en couple avec un scorpion ou une scorpionne, là ? Sachez que les scorpions et les scorpionnes vont être sous le charme des différences. Ouais. Il y a Pexil qui dit qu'ils sont deux scorpions. Eh ben, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ouais. Ouais. Méfiez-vous. Réussite. Votre pouvoir de concentration facilitera votre travail. Ok, d'accord. Et puis, forme bonne résistance physique. Bon, ça va, Scorpion. Sauf sur l'amour. On sent que... j'adore féminiser les mots. Et donc, les gens qui me disent « Ah, tu ferais mieux de dire une scorpion quand même par rapport à l'Académie française, tout ça. » Rien à foutre. Je mets des féminins partout, j'invente plein de mots. Donc, Scorpion. Je trouve ça joli comme tout. Voilà. Donc, méfiez-vous si vous êtes en couple avec un scorpion ou une scorpionne. Allez. Ah, encore un. Oh, les journalistes. On va encore prendre cher. Les Français et l'info, je t'aime moi non plus. Ça, c'est la grande enquête annuelle qui est passionnante, qui est publiée par La Croix, sur les rapports entre les Français et les médias. Est-ce qu'ils ont confiance dans leurs médias ? Est-ce qu'ils sont défiants envers le média ? Est-ce qu'ils sont méfiants envers les médias ? Les Français se sont fortement intéressés à l'actu en 2022, premier constat de La Croix dans cette enquête annuelle, mais ressentent aussi de la lassitude. Face au flux médiatique, c'est ce qu'indique le baromètre de la confiance dans les médias. Kantar Public One Point pour La Croix, c'est publié chaque année. Alors, qu'est-ce que dit d'abord ce rapport ? Donc, regain d'intérêt pour l'actu en 2022, ça c'est cool, mais une fatigue informationnelle, voilà, qui s'exprime notamment chez les femmes et les plus jeunes. Trop d'infos, bain d'infos, ça arrive de tous les sens. La télé, la radio, Internet, de partout, beaucoup de mauvaises nouvelles, très anxiogènes. Voilà. Et puis, il y a un fossé générationnel qui se dessine sur l'utilisation des réseaux sociaux. Bon, ça, c'est un peu une porte ouverte qu'on enfonce, mais pourquoi pas, pour s'informer sur la régulation qui pourrait être mise en place pour contrer les infox, que les plus jeunes s'informent un peu plus sur des supports numériques. Ce n'est pas une très grosse surprise. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quels sont les médias qui inspirent le plus de confiance aux Français. Devinez, bon, ceux qui ont les très bons yeux, vous allez pouvoir le voir, devinez quel est le média qui inspire le plus confiance aux Français. On est encore ensemble pour une heure, je ne fais pas de pause aujourd'hui. La radio, non. Non, c'est pas BFM. Oui, certains ont de très bons yeux. Non, c'est pas CNews, c'est pas le Parisien, c'est pas le service public, c'est les proches. Voilà. Les Français font d'abord confiance à leurs proches pour les informer. Je trouve ça bizarre. Pourquoi tonton José, pourquoi ta sœur Martine, pourquoi ton frère, pourquoi leur info serait juste ? Hein ? 68% des Français font d'abord confiance à leurs proches pour s'informer, 23% n'ont pas confiance. Pourquoi les proches comme dit Chucky Mac, c'est un proche qui peut avoir eu son info sur Facebook. Hein ? Voilà. Automate, genre le tonton complotiste. Voilà. Mais où s'informent les proches ? Bonne question, Blue Citrus, exactement. Poloche sans gêne, oui, parce qu'il y a un lien de confiance entre les gens, donc on les croit, eux. Bah oui, mais parfois le proche, où est-ce qu'il s'informe, quoi ? Parce que Caillou dit, parce que tonton, il est sympa, alors que Samuel Etienne. Attends, je cherche ton commentaire que j'aime bien. Alors que Samuel Etienne, il est où ? Ah, je t'ai perdu ! Alors que Samuel Etienne, on le voit à la télé, il a l'air malhonnête. Exactement. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Même si ça s'explique sans doute par les liens de proximité, 68% des Français font d'abord confiance à leurs proches. En deux, c'est les JT. C'est les JT d'information. C'est les journaux télévisés d'information. Les grands JT, les 20h, les 13h. Ok. La radio, 64%. La presse régionale, que j'aime bien beaucoup même, 63%. Les experts scientifiques universitaires, 59%. La presse quotidienne nationale en version papier ou sur internet que je vous lis tous les matins, 56%. Les émissions et débats d'actualité à la télé, 56%. Ou 54, je ne sais plus, attendez. 54, pardon. La presse hebdomadaire, News Magazine, 53%. Les chaînes d'information en continu, 52%. Les sites de médias uniquement présents sur Internet, ça commence à baisser là. 42% seulement. Les sites qui proposent une information différente qu'on ne voit pas dans les grands médias, peut-être que ça parle des sites d'information indépendants, je ne sais pas trop. Ça continue à descendre, 37%. Les émissions d'actu et divertissement à la télévision, donc c'est les émissions un peu hybrides, d'infotainment, type quotidien dans un genre, type TPMP dans un autre. C'est ce que dit Lacroix à un moment, c'est pas moi qui l'invente. Là, ça descend aussi. 33% seulement, 57% des Français qui n'ont pas confiance. Les réseaux sociaux, 27% seulement des Français font confiance, 64% n'ont pas confiance. Et puis les influenceurs, alors qu'est-ce que ça veut dire les influenceurs? Je ne sais pas. Là, c'est 17% seulement font confiance, 74% ne font pas confiance. Je me rangerai dans quelle catégorie, me demande Jean-Jacques. Je sais pas. Moi, je lis la presse nationale. Ici, ma proposition, c'est de vous lire la presse nationale. Les infos que je vous donne, elles viennent de la presse nationale. Donc, je remonte. Moi, je me mets pas dans la 17. Là, je me mets pas tout en bas. Là, moi, je me mets avec la presse nationale, hein, à 56% d'opinion positive, quoi. Voilà. Alors justement, il y a Chassandor qui dit, moi je trouve pas ces chiffres très pertinents, sur les réseaux sociaux tu peux te former différemment, t'informer différemment. Ici on est sur les réseaux sociaux, oui, en quelque sorte, oui. Mais d'ailleurs vous verrez qu'il y a un fossé générationnel justement dans ce rapport aux réseaux sociaux. Ça c'est des moyennes nationales, mais tous âges confondus, en fait, notamment dans, chez les seniors, eh bien, je pense qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui sont extrêmement défiants par rapport à l'info sur Internet de façon générale. Et plus on va vers une population jeune, et plus ça s'inverse, quoi. Voilà. Qui a fait ça, Samuel? Eh bien, c'est un baromètre annuel qui est publié par Lacroix avec une enquête qui est réalisée par Kantar Public One Point. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme le dit Nicousin, après, ça dépend de la tête de qui vous parle. Par exemple, ce Samuel Etienne, il a une tête qui n'inspire pas confiance, par exemple. Voilà. Donc voilà pour le petit classement. Et puis il y a aussi les Français fatigués par l'actualité. Ces derniers mois, vous est-il arrivé de ressentir de la fatigue, de la lassitude par rapport aux informations, à l'actualité? Trop d'infos anxiogènes. Très souvent 22%, assez souvent 29%, parfois 32%. Oui, de la fatigue. Rarement fatigué, jamais fatigué, 9%, 5%. Donc hein, une majorité large des Français souvent sont lassitude, fatigue par rapport à tout ça, quoi. Pourquoi cette lassitude? Intéressant, hein. Parce qu'on parle toujours des mêmes sujets dans les médias. Tiens, aujourd'hui, je ne vous parle pas de la réforme des retraites, par exemple. Ouais, je fais un effort. Je me sens angoissé, je me sens impuissant face à ces informations, 35%. J'ai pas confiance dans ce que les médias me disent, 22%. Les médias ne parlent pas de sujets importants pour moi, 19%. Je me sens dépassé par la quantité d'informations, 17%. Les informations ne sont pas utiles dans ma vie quotidienne, 10%. Voilà, c'est pas mal, hein. Je regarde un petit peu l'article. Alors, il y a une amélioration relative, hein, c'est pas non plus la fête, de la perception des médias par les Français dans cette année. Pourquoi ? Alors, Lacroix essaie de donner des éléments d'explication. Ils disent que globalement, le traitement de la crise sanitaire a été globalement jugé positif par les Français. Pareil pour la guerre en Ukraine. Et puis, il y a une amélioration relative de la confiance qui s'explique aussi par l'absence de dérapage collectif, comme la fausse arrestation en 2019 de Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, certains journalistes s'étaient un petit peu emballés en annonçant cette arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Les Français s'étaient dit, mes journalistes, en fait, vous vérifiez des fois les infos que vous donnez? Parfois, un journaliste, c'est n'importe quel, comme n'importe quelle autre profession, ça ne fait pas bien son métier. Voilà. Et donc, c'était le cas ici. Alors moi, je n'ai pas rapporté cette info, mais voilà. on va se battre la coupe collectivement. Et un certain nombre de journalistes avaient donné, effectivement, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, alors que en fait cette info avait été insuffisamment vérifiée. Voilà. Et ça arrive. Comme le dit Voudoukoma, oui, certains médias se sont emballés. C'est exactement ça. Ça arrive quand on veut aller trop vite. La course à l'info, c'est pas toujours très bon, ça. La course à l'info, c'est vouloir donner l'info plus vite que les autres, hein, pour que les gens se disent « Ah là là, moi je regarde BFM ou LCI ou France Info ou je lis... » Parce qu'ils sont toujours, ils donnent toujours les infos avant les autres. Méfiez-vous quand même. Parce que vous avez des médias aussi qui donnent beaucoup d'infos avant les autres, et puis parfois dans les infos données avant les autres, il y a pas mal de conneries aussi. Parce qu'il n'y a pas trop de mystère. C'est que plus tu vas vite, plus tu prends de risques. Plus tu vas vite, moins tu vérifies. Voilà. Moins tu prends le temps de vérifier une info, ce qui est la base de notre métier, quoi. Donc attention à la course à la vitesse. En matière d'information, c'est parfois un peu dangereux. Vous avez des médias que je ne vais pas citer. Je l'ai vu. Que ça ne dérange pas de donner une info à 8 heures. À 8h15, de plus vous la donnez, parce qu'en fait c'est une connerie. Et à 8h30 de vous dire exactement l'inverse. Voilà. Bon, je ne vais pas citer de médias, mais ça existe. Voilà. Donc, bon, c'est à vous de faire attention aux médias dont vous servez pour être informé, quoi. Et sans excuse, c'est-à-dire 8h, on te donne une info. 8h15, bizarrement, cette info a disparu. 8h30, on te donne une info qui est en totale contradiction avec celle de 8h. Et zéro excuse, zéro démenti. C'est-à-dire, on te dit pas « Ah, excusez-nous, tout à l'heure, on vous a dit ça, mais en fait, c'est pas ça, bon, c'est un peu gouré. On allait un peu vite, vous savez ce que c'est, j'avais pas vu le radar. » Non, tu sais, on donne l'info, ça fait, voilà. Hein, trois versions, trois infos, puis on continue. Hein. Voilà. C'est pas terrible. Enfin bon, c'est à vous de trouver les médias qui bossent plus ou moins sérieusement, puis ceux qui bossent, on va dire, plutôt moins que plus. Justement, amélioration relative de la confiance dans les médias français, parce que pas de dérapage collectif comme en 2019 avec l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Pas de grosses polémiques non plus, ni de discours de dénigrement comme lors des mouvements de Gilets jaunes où il pouvait y avoir beaucoup de défiance vis-à-vis des journalistes. Donc il n'y a pas eu de moment aussi Gilets jaunes. Il y a aussi le moment de bascule avec le coup de chaleur de l'été qui a frappé les esprits et mis à distance les discours climato-sceptiques, puisque bon, globalement les médias mainstream en France ont reconnu qu'il y avait un réchauffement climatique, dont les gens qui doutent un petit peu pouvaient être en colère contre les journalistes. Bon, les événements météo de ces derniers temps peuvent peut-être avoir apaisé un petit peu ces discours climato-sceptiques. Voilà un petit peu pour les explications. Je lis un petit peu. Et puis on va aller voir l'histoire des réseaux sociaux et des jeunes. Là, parce que là, il y a un fossé générationnel, nous dit La Croix, donc, dans le rapport aux réseaux sociaux, puisqu'on a vu que l'info sur Internet, sur les réseaux sociaux, était assez mal notée dans le classement. Là. 7 Français sur 10 déclarent utiliser les réseaux sociaux pour s'informer sans pour autant leur faire confiance, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs. C'est un peu bizarre. Hein. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, oh putain, il y a Twitch, sont devenus un moyen de s'informer pour 68% des Français, avec de grandes variations dans la fréquence d'utilisation et le niveau de confiance. La moitié des 18-24 ans, donc 54% contre 36% pour la moyenne des Français, déclarent utiliser au moins une fois par jour les réseaux sociaux pour suivre l'actu. Donc vous voyez bien que c'est un truc générationnel. Voilà. Ils ont aussi plus confiance, les jeunes, dans ces supports. Les plus âgés ne sont que 8% à faire confiance. Voilà. Le fossé est encore plus important concernant les influenceurs qui agrègent des youtubeurs très populaires auprès des jeunes, Squeezie, Cyprien, des producteurs de contenu d'information condensée et didactique, Hugo Décrypte, Gaspard G. Voilà, les 18-24 ans les utilisent massivement pour s'informer, 74%, à l'opposé des Français de 65 ans et plus, ils ne sont que 7%. Ami Galda, salut Sam, est-ce que tu aurais vu le tweet d'Edoui Plenel sur les journalistes invités par Macron? Oh, on va pas remettre une pièce là-dedans. Allez, par curiosité, bon, j'ai une petite idée de ce qu'il dit. On peut aller voir rapidement. C'est une info. Alors, il est où mon Edoui Plenel? Oh là, j'ai mon ordinateur qui rame. Edoui Plenel. J'ai pas vu. Allons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Alors. Je vois pas le tweet. Où est-ce qu'il est? Non. Ah, il tweet. Oui, il a plusieurs tweets. Il tweet. Mediapart. Mediapart, je le vois pas, je le vois pas. Ah, ah. Voilà. Tac. Bon, ça renvoie, si vous êtes arrivé en cours de route, au débat qu'on a eu ce matin, au début de stream, là-dessus. Alors, Edwy Plenel, ce déjeuner confidentiel à l'Elysée d'éditorialistes des médias qui ont tous accepté de taire cette rencontre avec le président tout en reprenant ses éléments de langage illustre ce journaliste de gouvernement contre lequel nous avons créé Mediapart. Non, mais il a raison. Il n'y a pas de souci. En fait, là, oui. Là, oui. Ça, c'est un truc sur le fond. Ouais. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, vous savez, c'est les réactions que j'ai vues sur les réseaux, y compris d'hommes politiques qui, voilà, qui sont on est un peu en mode complotiste, quoi. Voilà, c'est, on est dans le secret, dans le complot, dans la manipulation, voilà, on vous manipule. Voilà. Ça me gêne. C'est une mauvaise interprétation de cet événement. Mais Edwy Plenel, là, il a raison. Ce déjeuner confidentiel à l'Elysée, ouais, c'était pas un déjeuner public, il a raison. D'éditorialistes des médias qui ont tous accepté de taire cette rencontre avec le président. C'est vrai que les gens qui ont cité les propos du président n'ont pas dit qu'ils avaient participé à ce déjeuner, c'est vrai. Illustre ce journalisme de gouvernement. Bah voilà, ça c'est une critique. Mais c'est une critique constructive sur laquelle on peut débattre. C'est pas les mots qu'on a vus tout à l'heure, extrêmement violents sur les... je sais plus de quel mot ces journalistes étaient qualifiés. Journalisme de gouvernement, ouais c'est ça, contre lequel nous avons créé Mediapart. Voilà, là on est sur le fond. Là, on est sur le fond, ça c'est intéressant. Effectivement, ça pose la question de ce genre de repas secret entre hommes, femmes de pouvoir, que ce soit au gouvernement, dans l'opposition, le syndicat ou les entreprises, et des journalistes. Voilà, là on est sur le fond, moi il n'y a rien qui me choque dans cette réaction. Voilà. Là on est sur une réflexion de fond. Et c'est ce que j'aurais préféré entendre voilà, sur France 5. On continue. Donc bon, alors, le constat ici, c'est que effectivement, les jeunes s'informent plus sur Internet. Ok, on n'est pas tellement surpris. Même si j'aurais préféré être cité. Manifestement, la Croix n'a pas reçu mon chèque. Tant pis. Voilà. On a un spécialiste des médias qui dit « Les réseaux sociaux sont l'environnement informationnel des jeunes. Ils ne leur font pas pleinement confiance. » Mais ils apprécient c'est vachement intéressant. Mais ils apprécient la liberté d'expression qu'ils y trouvent, l'égalité d'accès à la parole, une forme de désintermédiation. Donc on a des jeunes qui consomment beaucoup l'actu sur les réseaux sociaux, mais qui sont prudents, qui ont conscience manifestement que, eh bien, il faut vérifier la qualité de l'information qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais qu'ils apprécient notamment pour la liberté d'expression, l'égalité d'accès à la parole. C'est intéressant. Pas mal ça. Non. Oh, c'est tout ? Non, j'ai des journaux papier aussi. Bon, bah voilà pour ce que j'avais mis sur ma tablette. Oh, j'ai tellement soif. Je vais pas aller faire un café pour une demi-heure. C'est pas sérieux. Je donne tout ce que j'ai. Armel Couvert, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ton joli solo. Merci pour ce 14e mois d'abonnement. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai lu les journaux sous version papier à France Info. En général, je les ramène à la maison après. Et puis là, je les ai oubliés à France Info. Voilà. Donc, je les ai retéléchargés sur ma tablette, ce que je viens de vous lire là. Et il y a deux rescapés qui sont là. Un petit cahier ici, le Figaro Économie. Voilà. Et le petit cahier, les échos, entreprises et marchés. Deux cahiers où je trouve des choses passionnantes. Alors, ça, c'est vraiment le truc qui ne fait pas envie, hein. T'es même pas dans les échos là, t'es dans le cahier entreprise et marché des échos. Tu dis, mais je vais pas lire, j'ai pas envie de lire le cahier entreprise et marché des échos. Mais détrompe-toi, bel ami, mais c'est passionnant, il y a des dingueries dans ce cahier tous les jours. Là, on a deux articles sur la pression qui monte sur les pratiques des influenceurs et sur l'offensive des constructeurs automobiles chinois. C'est passionnant. Détrompe-toi, jeune influenceur. C'est passionnant. Et le Figaro Économie, c'est pareil. Vous dites, oh là là, le Figaro Économie, mais c'est pareil, d'une dinguerie. Il y a des choses passionnantes là-dedans. Les pages saumon du Figaro, exactement. Anarchiste dit, on va se faire chier, mais on est prêt. Mais non, c'est super. Alors, je commence par quoi? Vous savez quoi? On va commencer par la démographie. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a parlé de la démographie en Chine, dans le monde, rien ne va plus, le taux de natalité s'écroule, ça va leur poser sans doute des problèmes au niveau de l'emploi, au niveau des retraites. Bon, on a vu ça tout à l'heure avec des projections, on va voir si elles sont vérifiées, mais qui disent que à la fin du siècle, la population chinoise pourrait être divisée par deux. On passerait de 1,4 à 700 millions d'habitants, mais c'est n'importe quoi. Bientôt, il y aura plus de Français que de Chinois. Mais où va-t-on, quoi ? J'exagère un petit peu. Et, caméra zénitale, j'entends mon petit Solal qui rentre, là, qui va peut-être venir. Ah, je l'entends. Oui, mon chéri ! Oh, c'est un cadeau, c'est pour maman ? Excusez-moi, alerte enfant.
Qu'est-ce que c'est ?
Tu crois que je peux l'ouvrir, moi ? Tu crois que papa, il peut l'ouvrir ? Bah non, c'est pour maman.
Oui.
Ah, alors, c'est pas pour papa. Non. J'ai pas le droit de l'ouvrir. Il faut ouvrir avec maman, exactement. Exactement. Attends, t'as oublié de me faire un bisou.
T'étais où ? T'étais où ? T'es
allé faire des courses avec Rodélia ?
Oui.
T'as acheté quoi ? Du vin ?
Non.
De quoi t'as acheté ?
Tu
sais plus ?
Papa ?
Oui.
Des
quoi tu veux qu'on achète ?
Des doudou Pika, vous ? Doudou Pika, vous ?
Tu veux qu'on achète des doudous Pikachu ?
Oui.
Pourquoi ? Quel doudou tu veux qu'on achète Pikachu ?
Des
jaunes. Un jaune ?
Oui.
Comme Pikachu par exemple ?
Oui.
D'accord, ok. Ben, avec plaisir. Bon bah on va ranger ce paquet pour maman tout à l'heure. Tu crois que c'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être ? On va demander à maman tout à l'heure, d'accord ?
Tu donneras à maman ? On peut pas l'ouvrir. Non, elle va être triste, maman. Non. C'est maman qui doit ouvrir. Faut pas ouvrir les paquets des autres. Interdit.
Solal ? Je t'aime très fort. Je peux venir dormir avec toi tout à l'heure ?
Oui.
Faire la petite sieste ?
Oui.
Ok mon chéri. Ok, ok, tu, ok, dans la chambre de papa et maman. Tu fermes la porte. Non, la porte, non. Bon. Enfin, j'arrive, je vais fermer la porte. Ah si, oh, il ferme la porte en plus. Oh. 2 ans et demi, mais quelle intelligence. Mais quelle intelligence, cet enfant. Mais je me demande de qui il tient. Cet enfant. Ah, bon, on est interrompu par Chouchou, qui est revenu de la promenade. Hop là, donc. Donc je disais, bientôt, plus de Français que de Chinois. Évidemment, comme d'habitude, je n'exagère pas du tout. Le Japon... ceux qui disent de sa mère pour l'intelligence dans le chat, vous avez raison. Le Japon est confronté au même problème. La chute vertigineuse des naissances pétrifie le Japon. Pourtant, 2 fois plus nombreux que les Français, les Nippons font à peine plus de bébés. What ? Ils sont 2 fois plus nombreux que nous, ils font à peine plus que nous de bébés. Mais qu'est-ce que vous faites le soir, les Japonais ? Le déclin est inexorable. Là, je rigole, mais en fait, c'est assez compliqué, leur histoire. La société japonaise est au bord de la paralysie. Pour son discours de rentrée parlementaire, lundi, le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, a sonné le tocsin, la cloche, quoi. Ding, 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 ding. Entre janvier et octobre dernier, le ministère de la Santé a comptabilisé 669 871 naissances, donc c'est assez précis. Comparaison stupéfiante, même en situation d'essoufflement démographique elle-même, la France, à la population presque 2 fois moindre, a enregistré 606 996 naissances sur la même période. On fait quasiment autant d'enfants que les Japonais, alors qu'ils sont 2 fois plus nombreux. 2015 encore, le Japon comptait 1 million de bébés contre 669 000 aujourd'hui. Je vous lis un petit peu. Ah, il y a un débat qui est intéressant dans le chat, souvent quand je parle de bébés, il y a des gens qui me disent qu'ils se soucient pour la planète, qui disent « Ah, mais en quoi c'est mal qu'il y ait moins de monde sur la planète ? C'est bien, au contraire. » Et de Sassimous répond « L'argument de la baisse de population pour lutter contre le réchauffement s'appelle le malthusianisme. » C'est un vieux truc, en fait. Hein. Et c'est n'importe quoi. Il suffit de regarder ce qui produit le plus de pollution. Ce n'est pas les populations, ce sont les industries. Bon, ce n'est pas un débat qu'on aura. Là, maintenant, tout de suite, on va manquer de temps. Cette prise de conscience du gouvernement japonais est trop tardive. La population a commencé à reculer il y a 15 ans, en 2007. Une variable pourrait certes infléchir les courbes, les étrangers. Alors ça, c'est compliqué. La question de l'immigration au Japon, c'est compliqué. Une variable pourrait infléchir les courbes des étrangers, malgré les dénégations officielles du gouvernement qui affirment ne pas suivre de politique d'immigration. Le nombre de résidents étrangers grimpe régulièrement jusqu'à la crise du Covid, où là, évidemment, ça a un peu changé la donne. En juin dernier, le gouvernement a publié une feuille de route pour atteindre une société pouvant coexister en harmonie avec les étrangers, ce qui est un peu compliqué au Japon, ce qui semble dénoter un changement d'attitude plus positive envers les étrangers. Sauf que cette analyse un peu optimiste, si vous avez vu, prévu de partir vivre au Japon, fait fi de la politique suivie par l'administration et notamment par le ministère de la Justice qui vise à décourager le séjour de longue durée des étrangers. Partez en week-end au Japon, pour une semaine ou 15 jours au Japon, oui, restez, c'est plus compliqué. 2019, une réforme d'ailleurs a ajouté des conditions d'attribution d'une extrême sévérité aux demandes de visa permanent. Un seul retard dans le paiement des cotisations sociales ou des impôts au cours des 5 années précédentes, genre t'as oublié, t'as posté tes impôts avec un jour de retard, eh bien c'est refus de visa. Boum. Malgré l'effondrement démographique, le Japon ne semble pas disposé à passer d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Et ça, effectivement, comme le dit 66 Abigail, les Japonais sont un petit peu conservateurs et ils ont même très peur des étrangers. On dit quoi, Gaijin ? Non, ça c'est en Chine, ça je crois. Dan Blaster dit « Le Japon est dans la sauce, ils vont devoir ouvrir l'immigration qui est très bloquée là-bas, pas mal de racisme. » Alors moi je pense que... si, au Japon aussi c'est Gaijin. Okay. J'ai le sentiment que je crois que les Japonais préféraient perdre en population, perdre en économie, perdre en compétitivité, perdre en plein de choses plutôt que d'accueillir des étrangers chez eux. J'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai problème par rapport à ça. Mais bien sûr, Yaris qui écrit un couple sans enfant qui prend l'avion une fois par an parce que notamment il a plus de pouvoir d'achat qu'avec un enfant. Il pollue plus qu'un couple avec enfant. Mais bien sûr, c'est une évidence ça. Je pense que tout le monde le sait. Bien sûr. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais il faudrait que je creuse un peu cette histoire. Je ne suis pas sûr que ne pas avoir d'enfant ou en avoir beaucoup moins serait forcément le vecteur le plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que si on change nos modes de vie, ce serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Matt Beer, bonjour Samuel, est-ce que tu lis tes messages Twitch, Twitter? Je les lis, mais j'en reçois des dizaines tous les jours, donc j'ai du mal à répondre. Je lis. Mais je dis, ah, c'est intéressant, je vais y répondre. Oh, c'est super, mais ça, c'est une bonne proposition. Ah, je vais le mettre de côté, je vais y répondre. Et je réponds très rarement. Sauf quand le message c'est Samuel, voudrais-tu travailler une demi-heure dans des conditions totalement déontologiques, sans que ça pose aucun problème, pour je sais pas, 50 000 euros, une demi-heure, ce tarif tout à fait convenable. Là, oui, là, je trouve le temps de répondre au message. Voilà, par hasard, parce qu'à un moment, il y a des trucs qui me parlent dans le message. Déontologie, travail, des choses positives comme ça. Mais sinon, je manque de temps. Ah bah oui, ça, c'est le manque de temps, ça. Voilà. Alors maintenant, vous savez quoi faire pour que je lise vos messages. Quand c'est une invitation à déjeuner à l'Elysée, tu réponds aussi, me dit Kiryu. Me méfie des invitations à manger des poétiques. C'est chiant. La matière politique me passionne. Le débat politique me passionne. La confrontation des idées politiques me passionne. Échanger, discuter avec des hommes et des femmes politiques, je connais leurs idées. Ça me passionne, mais quel intérêt de discuter Ce qui est intéressant derrière la personne, c'est les idées. Mais les idées, je les connais. J'ai pas besoin de bouffer avec la personne pour... comprendre mieux quoi. Je préfère aller courir ou faire un stream ou passer du temps avec mes enfants. En vrai, c'est chiant quoi. C'est chiant. Pourrais-tu nous raconter une des invitations avec un politique que tu aurais eu, que tu aurais marqué? Non, parce qu'en fait, j'en ai jamais fait. Hein. On m'a assez peu invité dans ma carrière parce que je suis pas un journaliste spécialisé en politique. Et puis, une fois, je crois, qu'on était jeune journaliste à iTélé, on avait été invité, mais plusieurs, plus, on était au moins une dizaine de iTélé, donc c'est l'ancêtre de CNews, qui avait été invité en tant que rédaction, en fait, au ministère de la Justice, à l'époque, place Vendôme, pour un déj. Jamais compris pourquoi on nous avait invité, d'ailleurs. On m'avait invité. Bon, il y avait le journaliste politique et le directeur de la chaîne, je crois. Bon, pourquoi pas. Bon, je sais pas ce que je faisais là-bas. Bon, je me suis un peu fait chier en vrai, voilà. Mais c'est mon seul souvenir de ce déjeuner de ce type. Aucun, aucun, aucun. aucun intérêt. Mais si t'étais invité, tu dirais oui. Non, mais j'ai pas envie, c'est chiant. Après qu'un journaliste politique dont c'est la passion veuille aller recueillir l'information à la source, poser les questions directement, bon, pourquoi pas, hein. Ouais, je peux comprendre la démarche. Que vous allez faire... C'est chiant, quoi. C'est chiant. Tu cours souvent, Étienne? Ah, à une époque, je courais tous les jours. Pendant une vingtaine d'années, j'ai couru tous les jours. J'ai fait un petit peu de course à pied, un petit peu de triathlon, et puis avec le stream. J'ai mis plutôt l'accent sur les... sur le gras. Sur le gras. Et puis, oui, et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Bon. Combien de temps il nous reste? Oh, il nous reste un petit peu de temps, c'est cool. Ben voilà, de pas avoir fait de pause dans le stream. Du coup, on est bien, c'est bien. Du coup, on va pouvoir lire tranquillement ces deux articles pour terminer qui sont très passionnants. Je remercie Ragnard le Roi pour ce 3e mois d'abonnement. Je vous rappelle que si j'ai grossi, si j'ai pris du bedou, ça se voit pas comme ça parce que bon, voilà, je masque sous des formes amples, mais si j'ai pris du ventre et que j'ai levé le pied sur le sport, c'est de votre faute. C'est la faute de Twitch. C'est la faute du stream. Parce que quand j'ai commencé le stream il y a 2 ans, j'avais déjà 2 jobs. J'avais Question pour un champion, j'avais France Info. Et puis j'avais les enfants. Et j'avais déjà pas beaucoup de temps. Et je me suis mis à streamer quasiment tous les jours. Et c'est de votre faute. J'ai arrêté le sport. Et maintenant, je ressemble à une bouteille d'Orangina. Voilà. Et je ne me mets plus en maillot de bain sur la plage. Parce que les enfants ont peur, voilà. Parce que les femmes détournent le regard, parce que les hommes se moquent, et c'est de votre faute, et c'est de votre faute. Donc je veux que le soir, quand vous couchez, quand vous pensez à toutes les belles choses que vous avez faites dans la journée, je veux que vous puissiez vous dire aussi que quelque part vous avez une responsabilité dans cet affaissement généralisé de mon corps, hein. Donc je veux que vous vous sentiez un petit peu coupable aussi. Il faut courir l'après-midi, oui, mais de temps en temps, je dors un peu aussi. Voilà. Tu as oublié de mettre du violon. Non, c'est de votre faute, Pifou. C'est de votre faute. Exactement. On reçoit des messages. Excusez-moi. Ah, je cache la caméra zénitale pour que vous ne puissiez pas voir mes SMS. Alors, j'ai un ministre du gouvernement qui m'écrit, qui me dit... Bah, tu viens plus au déjeuner ? Elle est jolie cette photo. Tu viens plus au déjeuner? Quel déjeuner? Bizarre, de quoi on parle. Ok, un message de mon amoureuse, ça on répond en priorité. Ok, d'accord. Ok, j'apprends que Pif Gadget. Il va y avoir un timbre La Poste Pif Gadget qui va sortir. Ok. Et je regarde les audiences de la matinale de France Info qui sont tombées. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, j'ai à peu près tout lu, d'accord. Ok, d'accord. Responsable, mais pas coupable. Si, vous êtes coupable. Allez, 2 articles encore. La pression qui monte sur les pratiques des influenceurs. C'est bien ça. C'est pas la bonne scène. C'est bien ça. C'est bien ça. La pression monte sur le monde des influenceurs. Pas les streamers. Hein. Pas les chouettes streamers qui partagent leur passion, le jeu vidéo, la cuisine, l'art, la presse, même certains. Non. Non, ceux qui vous vendent des trucs, là. Tout pourri. La pression monte sur le monde des influenceurs avec la publication lundi d'une étude accablante de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur leurs pratiques commerciales et l'annonce d'une action collective en justice, boum, engagée par des dizaines de personnes estimant avoir été arnaquées en investissant dans des produits financiers, par exemple, hein, vantés par de célèbres influenceurs comme les deux, là, je ne les connaissais pas, je ne suis pas très au courant de ce monde-là, moi, Marc et Nadé Blata, je ne sais pas si vous connaissez. La DGCRF, qui constate ainsi que sur la 60aine d'influenceurs et d'agences qu'elle a ciblées depuis 2021, 6 sur 10 ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. 6 sur 10 ne respectaient pas la loi. Parmi eux, certains ont trompé les consommateurs sur les propriétés des produits vendus, Hein, fausse allégation anti-Covid, produits bio ou naturels qui en fait ne l'étaient pas du tout. Ou ont promu des produits ou services risqués, notamment dans le domaine des paris sportifs. Les services de la DGCCRF ont engagé plusieurs procédures en justice. Vous voyez que ça bouge un petit peu. Le gouvernement avait d'ailleurs annoncé en décembre le lancement d'une consultation publique et des groupes de travail pour mieux encadrer les influenceurs. Elle est toujours en cours. Si vous tapez « consultation publique influenceur », vous allez tomber sur un site officiel pour donner votre avis là-dessus. C'est une consultation publique qui est en cours. N'hésitez pas à aller donner votre avis. Parallèlement, l'action en justice en nom collectif visant le couple, là. Ils ont l'air bien dans leur berline, là. Ou énorme SUV, je sais pas, on dirait que ça fait 600 mètres carrés. Visant notamment le couple Marc et Nadé Blatter, installé à Dubaï, s'étant rencontré après le tournage de La Belle et ses princes presque charmants sur W9, c'est quoi cette émission ? La Belle et ses princes presque charmants. Concerne les pratiques de promotion et conseils sur les produits financiers, menées par un collectif qui s'appelle Aide aux victimes d'influenceurs, qui vise tout d'abord la promotion autour de NFT, donc lancé par les deux, là, baptisé Honeymoon, inspiré de l'univers Pokémon. Ok, d'accord. Selon Jocelyn... Oui, la main fâchée, je connais, MMG. Pourquoi ? Je connais tout à fait. Selon Jocelyn Ziegler, du cabinet Ziegler et Associés, qui est avocat de ce collectif, les influenceurs auraient fait la promotion de ces NFT avec des promesses telles que de grands voyages, sans que les investisseurs ne puissent en voir la couleur. Ensuite, le collectif pointe du doigt les conseils d'investissement, notamment sur des produits de crypto-monnaie et des produits à effet de levier. Selon l'avocat de ce collectif, le préjudice estimé serait de plus de 6 millions d'euros. Les deux, vous êtes plein à me dire que vous ne les connaissez pas. Hein ? Préjudice 6 millions d'euros. Les victimes seraient majoritairement des jeunes. Putain, c'est honteux, quoi. De 16 à 25 ans. Marc Blatta, donc c'est lui, compte plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram. On voit bien. On voit bien que, comme le dit le papier là, des échos, la pression monte sur les pratiques des influenceurs. Manifestement, les pouvoirs publics notamment veulent commencer à encadrer, à sévir. Et puis les victimes ne se laissent plus faire et s'organisent en collectif pour porter plainte. Voilà. Bon, j'ai tellement soif. J'ai plus rien à boire. Mais c'est pas grave. Je donne tout ce que j'ai. On va terminer avec ce papier. On parlait de la démographie chinoise tout à l'heure qui était en baisse. Il y a un truc qui n'est pas du tout en baisse, ce sont les exportations de voitures électriques, essentiellement électriques, chinoises. Voilà. La Chine bien placée pour devenir le numéro... Suspense, il faut passer la page. Un ou non des exportations automobiles. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, pronostique une lutte terrible face aux marques chinoises de plus en plus nombreuses. C'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire ? Tout un symbole. La Chine a dépassé l'Allemagne pour devenir le deuxième exportateur mondial de voitures. Hein, c'est plus la patrie de Volkswagen, d'Audi, de BMW, de Mercedes qui est le deuxième exportateur mondial de voitures. Eh bien, désormais, c'est la Chine avec les marques. On les connaît pas. On les connaît pas bien. Pas encore. Les exportations chinoises ont bondi de 54% l'an dernier. 3 millions de véhicules. Et c'est bien parti pour que la Chine devienne la première, le premier pays exportateur de voitures en passant devant. C'est qui le premier actuellement ? C'est le Japon. Ouais, c'est le Japon. Toyota, tout ça. La poussée est très forte dans les véhicules électriques. Autant les Chinois n'avaient pas réussi à convaincre les consommateurs européens, américains avec leurs moteurs thermiques. Eh bien, autant avec les voitures électriques, ça marche bien. Il y a une marque qui s'appelle BYD. BYD, ça se prononce sûrement pas comme ça, c'est Build Your Dream. Comment on dit ça correctement ? Parce que t'imagines, la marque BYD, t'as quoi comme voiture ? Bah c'est une BYD. Ah ouais, t'es sûr que ça marche ça ? BYD ? On dit peut-être pas BYD, on dit BYD peut-être ? BYD ? On dit BYD ? Vous êtes pas d'accord comme d'habitude ? Voilà. BYD, 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 BYD. Ouais, je dirais BYD moi. C'est mieux que BYD, hein. C'est mieux que BYD. Ouais. BYD, Geely, NIO. Depuis plusieurs mois, les marques chinoises débarquent en Europe lors du CES de Las Vegas, dont on a parlé avec Pepe Garcia vendredi soir. Le PDG de Stellantis, Carlo Tavares, a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme, mettant en garde contre la menace que représente l'incursion de nouvelles voitures et marques chinoises sur le marché européen, pronostiquant une lutte terrible parce que ces marques se développent très vite avec des véhicules compétitifs à des prix agressifs. La différence de prix entre les véhicules européens et chinois est importante. Si on ne change rien dans la situation actuelle, les clients européens de la classe moyenne vont se tourner de plus en plus vers les modèles chinois. À cela s'ajoute une réglementation européenne peu contraignante. Certains disaient dans le chat à l'instant, et c'est vrai que les Américains, eux, ben, avaient déjà mis des barrières, par exemple en disant qu'il n'y avait pas d'aide à l'achat des voitures électriques sur le sol américain si la voiture n'avait pas été construite justement aux États-Unis, alors qu'en France, eh bien, vous pouvez avoir tout à fait des primes à l'achat de voitures électriques, même si la voiture a été construite en Chine. Voilà. Donc, certains disent que les Européens, les Français sont un petit peu naïfs, quoi. Les taxes à l'importation de véhicules électriques chinois en Europe s'élèvent à 10%, 10% seulement, et ces derniers sont, c'est ce que je vous disais à l'instant, je ne dis pas que des conneries, éligibles aux subventions à l'achat non soumises à une production locale, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, parce que ce que je vous disais, et ce qui n'est pas le cas en Chine non plus. Alors, en Chine, vous pouvez acheter une voiture, si vous voulez acheter une voiture, je sais pas, électrique américaine ou européenne, eh bien vous n'aurez pas la petite prime qui va avec, qui peut être confortable. Aux États-Unis, si vous achetez une voiture qui n'a pas été construite sur le sol américain, vous n'aurez pas la prime. Ben, en France et en Europe, si. Aïe. Donc vous avez les constructeurs européens qui disent hey, les gars, vous êtes cons, quoi. Hein, voilà. Les constructeurs chinois apparaissent en bonne place pour satisfaire la demande européenne de véhicules électriques et pouvoir représenter 18% du marché à l'horizon 2025. Donc genre une voiture sur 5. Reste que les chiffres d'exportation chinoise sont aussi liés au choix stratégique du constructeur étranger parce que la Chine devient aussi de plus en plus une base d'exportation pour de nombreux constructeurs internationaux comme Tesla, comme BMW, comme Stellantis, comme Dacia qui utilisent des usines chinoises pour aller exporter ensuite vers l'Europe. Dans, c'est mon petit Solal là, il ne veut pas aller dormir, je le connais, dans les chiffres des... Où est mon chéri ? Elle dit non à quoi, Da?
Pas de
dodo,
avec papa.
Il y a sa petite forêt. Ah, what time? Ah, mais est-ce que tu vas aller à Petite Forêt tout à l'heure?
De papa et maman.
Is he going to sleep now? What time is Petite Forêt?
Ah,
you know what? I won't go to sleep because I see somebody at 1:30. I have a meeting.
So,
of yes, I won't go. Okay. I won't go to sleep. So, c'est bon, Solal. Tu peux aller dans la chambre de papa et maman, oui. Et après, je viens te voir. Thank you, Ortelia. Drôle. Ah, trop chou. Voilà. Donc vous avez compris que dans les chiffres des exportations chinoises de voitures, il y a aussi en fait les chiffres de constructeurs européens et américains qui fabriquent en Chine. Ça fausse un peu le truc, quoi. Voilà. Mais le petit, il comprend rien du coup à ce que dit la dame. Bah si, en fait, Solal, sa nounou qu'il connaît depuis qu'il est né, lui parle anglais H24. Donc il comprend. Il comprend notre français. Voilà. Et il comprend l'anglais de Rodelia aussi, quoi. Donc, et quand il s'exprime, chouchou, il mélange un peu les deux langues et c'est assez mignon d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est cool. Donc, j'adore. Il y a Tiklem qui dit, mais Samuel, mais tu es américain toi aussi comme étoile? Non, pas du tout. Vous avez entendu mon anglais à l'instant et l'accent pourri que j'ai. Et en fait, non, c'est juste qu'on a souhaité que les enfants soient un peu plongés dans un bain linguistique. Et donc, voilà, la nounou ne parle qu'anglais aux enfants, alors qu'elle pourrait parler français aussi, pour qu'ils soient plongés dans ce bain. Malo a eu des cours d'anglais, des petits cours d'anglais cool tous les jours depuis qu'il est en maternelle. Et Solal, c'est un peu la même idée aussi, quoi. Voilà. Voilà. Mister Boulon qui se moque, voilà, qui est en mode guerre des classes, qui dit « Oui, il n'est pas américain, il est juste bourgeois. » Merci beaucoup pour le petit compliment. C'est gentil, petit chouchou. Je te fais un gros bisou. Tiens, pour la peine, tu m'enverras un sub. Comme ça, je le serai vraiment. Je veux dire, encore un petit peu plus. Balance ton sub au gros bourgeois de streamer qui est Samuel Etienne. Est-ce que tu as vu le live des papas Twitch de Gotaga? Oh, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Le live des papas Twitch de Gotaga? Mais ça devait être trop bien. What is the concept? Qu'est-ce que c'est le live des papas Twitch de Gotaga? C'est tous les papas de Twitch? Quoi, il y avait Jiraya, il y avait... c'est quoi l'histoire? C'était hier, c'est quoi? C'est quoi? C'est le concept. C'était quoi? C'était les streamers papa? Jiraya, bah ouais, bien sûr. MV et Yanou, ok. D'accord. Et oui, bah j'ai pas été invité. Nul. Ce qui était pas nul, c'est ce stream. Et hop, à la seconde près, 3 heures de stream. C'est beau. Là, maintenant, tout de suite. Donc, bah, je vous abandonne hein, comme des vieilles chaussettes, en fait. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir. Je me suis régalé, c'était cool. Voilà, pardon, j'avais oublié les journaux à France Info, mais finalement, bon, avec ce que j'ai retéléchargé derrière sur ma tablette, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. J'ai bien aimé échanger avec vous sur cette histoire de déjeuner secret à l'Élysée. C'était cool d'avoir vos regards là-dessus, de parler de sexisme aussi, le sexisme en France, de parler de la Chine, du Japon. On a fait une petite pause sur les retraites, voilà, mais il n'est pas impossible que ça revienne dans les prochains jours. Et puis, j'adore ça. Il y a Ticho Codil qui dit, en parlant de chaussettes, est-ce qu'il y a une date pour la mise en vente de ton, on dit quoi, merch, c'est ça? Donc des vêtements que je mettrais sous mon... Mais on voit, mais qui va acheter un sweat, un t-shirt, un caleçon, Samuel Etienne, quoi. Je vois des moi, pas moi, le slip Samuel Etienne j'achète. C'est pas mon slip, hein, pas mon slip porté, hein, des slips tout neufs, hein. Un bonnet de nuit, Papy Sam, ça, en vrai, ça me ressemblerait, ça. Un caleçon, je prends, moi direct, la chaussette Etienne, un mug, j'achète direct, le string Samuel Etienne. Oh putain, le string Samuel. Oh, voilà la tête du string, quoi. Seulement s'il a été porté. La tête du string Samuel Etienne. Un bob Samuel Etienne pour être le plus beau sur la plage. Mais Kim était bourgeois de viewer, bien sûr, j'adore votre humeur, vous êtes formidable. Merci pour ce matin. On va essayer de faire une semaine full stream, sauf vendredi matin, je serai pas là. Ouais. Vendredi dernier, j'ai fait double stream. J'ai fait vendredi matin la revue de presse, j'ai fait vendredi soir l'hebdo Étienne. Il y aura l'hebdo Étienne vendredi soir numéro 19, ça c'est sûr. Mais il y aura pas le matin de revue de presse parce que j'ai le rendez-vous à l'école de Solal pour petite section maternelle l'an prochain, le rendez-vous d'admission. Donc je pourrai pas être avec vous. En revanche, demain on est mercredi. Revue de presse, jeudi matin, revue de presse, vendredi soir, ah mais je comprends, elle m'a eu Hélène là, elle me paraît dimanche, ah je me suis fait avoir, j'allais dire vendredi soir l'hebdo Étienne, samedi petite pause et puis dimanche matin revue de presse et qu'est-ce que je vois là, ça c'est l'amour ça. Est-ce que je peux réserver un truc dimanche matin à 10h45 pour les enfants, ça va leur faire plaisir? Je dis, bah, bien sûr, ma chérie, bien sûr, dimanche. Qui travaille le dimanche? J'avais oublié la revue de presse de dimanche. Eh bien, on fera une revue de presse le soir, on fera une revue de presse en fin de journée. Voilà, exactement. C'est fou, ça. Je me suis bien fait l'avoir, ça. Bon, enfin, bon, l'amour, c'est plus important que tout. Ok, merci. C'est parti pour un petit raid. Proposez-moi, avant de se quitter, je vais aller manger. Je déjeune avec le président. Proposez-moi dans le chat des noms de streamers, de streameuses en live actuellement, qui n'ont pas beaucoup de viewers, qui n'ont pas encore des grosses communes, mais qui font des trucs vachement bien. Et on va aller tous lui rendre une petite visite, voilà, pour l'appuyer. Je vois Ponce, un des plus gros streamers de France. Je kiffe Ponce, mais ça n'a pas de sens. Non, des petits, pas par le talent, mais par le nombre de viewers. Je vous mets une petite musique, on n'a pas fait de pause café. Je vous mets une petite musique, 2 minutes, pas une seconde de plus de pause, 2 minutes, pas une seconde de plus de musique ou de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, et on fait un raid tous ensemble. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, à activer les notifications, plus on est de fou, plus on rit. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, c'est là que je raconte toute ma vie, voilà. Et quand je vendrai mes chaussettes sales, je le dirai d'abord sur Twitter. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube qui est gérée par Mathieu. Vous tapez VOD 5 minutes sur YouTube, vous avez tous les replays depuis le début de ce que je l'ai fait sur Twitch, dans les musées, Les hebdos Étienne, elles sont toutes là-bas sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à acheter les confitures aux fraises Samuel Étienne. Vous les trouverez dans vos meilleurs magasins. A tout de suite pour le raid. C'est même pas au début. Là, c'est au début. Dans 30 secondes, 20 secondes. Et on va être dans 15 secondes. C'est trouvé. J'ai trouvé la destination. Voilà, on vous emmène au Japon. On a parlé du Japon, de la baisse de natalité. On est en stream IRL au Japon. Il y a plusieurs chaînes que j'aime beaucoup au Japon. Voilà. Et ça, c'est une chaîne que je n'ai pas arrêtée depuis un petit moment, de quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est en train de charger, certains l'ont déjà vu. Je vous donne le nom de la chaîne pour ceux qui ne seront pas happés par le raid. Ça arrive parfois techniquement. C'est Nihon, N-Y-N-Y-H-O-N, française, qui vit au Japon depuis un moment déjà. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là, elle est en stream IRL. On est à Tokyo, on est sous la neige, on est en plein Tokyo, c'est juste une dinguerie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie, c'était cool. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. À demain matin. Encore merci pour tous les subs, pour ceux qu'on sub aujourd'hui. Et let's go voir Nihon. Ciao, ciao, vous allez voir, elle est super. À demain.